Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Au bout du foot présentée par Eladji Makalou. Tout de suite dans le vif du sujet, hein, j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous êtes prêts pour cette émission. Quelle semaine de football, messieurs, quelle semaine de football. Franchement, qui s'y attendait? On va dire Lucas avec un petit sourire déjà, mais franchement, qui l'aurait cru? Nos 4 clubs français sont qualifiés en Ligue des Champions pour les barrages, Lille pour les 8. 8e directement, on pensait pas aussi Lille dans le top 8, Paris Saint-Germain qui se qualifie tout de même dans les barragistes, et franchement Brest aussi qualifié, et Monaco aussi qualifié, 4 sur 4, on est l'un des rares pays à faire 4 sur 4 en Ligue des Champions. Franchement, messieurs, comment allez-vous? Ibrahima, comment ça va?
Salut Elhadj, salut à tous. Ça va, hein, ça va, ça se passe plutôt bien.
T'as suivi la semaine de football?
Ouais, surtout en Ligue des Champions, 18 matchs en même temps. Pas facile à tout suivre, mais...
C'est vrai que c'est difficile, il faut faire des choix.
Ouais, bah très content des résultats des équipes françaises. Hein. Je pense qu'on en parlera un peu plus en détail, mais... Ouais, franchement, j'aurais pas misé là-dessus en début de saison, donc ça fait plaisir.
Alexandre?
Ouais, salut Elhadj, salut à tous. Salut. Ça va. Bonne semaine pour les clubs français. Bonne semaine de foot en général. Bon, après, en Ligue 1, c'était un peu moyen ce week-end, je trouve. Mais sinon, ça va super.
Il y a eu des buts quand même du côté de la Ligue 1, n'est-ce pas, Lucas?
Ouais, il y en a eu, ouais. Salut Elhadj, ça va?
Ça va et toi?
Ouais, super. Ouais. Non, moi, je trouve très belle semaine de foot en semaine et le week-end aussi, en Ligue 1 aussi. Je suis pas d'accord avec Alex. Je trouve qu'on a une belle journée. En tout cas, moi, j'ai vu des matchs qui m'ont plu, que ce soit celui de Paris ou celui de Marseille-Lyon hier soir. Donc, c'était cool.
C'est sûr que ça a dû moins plaire à notre cher ami Léo, qui a suivi bien évidemment la prestation de Lyon en Ligue Europa et aussi hier en Ligue 1. Comment ça va déjà, Léo? Ça fait un petit
déjà,
moment.
Ça va. J'espère que tout le monde va bien. Salut à tous. Lyon reste dans ses standards récents. Donc l'important est la qualif. Donc voilà, club qualifié, très bien. On va voir ce que ça donne au mois de février, et puis en Ligue 1, on va aussi attendre un petit peu, quoi.
On va attendre un petit peu, en tout cas, nous, on n'a pas attendu hier, et franchement, en deuxième mi-temps, ça s'est vite emballé. On a pu le voir avec un OM qui a retrouvé des couleurs en deuxième mi-temps, parce que le match à la première mi-temps, c'était
terne au début.
Ouais, c'était très... Voilà, fallait suivre, fallait vraiment aimer le football pour être là devant sa télé, oui, faut le dire. Et bien évidemment, la deuxième mi-temps, ça a été tout autre, avec notamment des faits de jeu discutables, comme d'habitude, mais bien évidemment, sinon ça serait pas marrant, c'est un Olympico, il faut bien que ça soit un peu pimenté, aussi par l'arbitrage, et bien évidemment... l'Olympique de Marseille qui sont imposés en vue de la physionomie du match. On peut dire que c'est assez logique aussi, avec une très bonne rentrée de leur recrue Gouiri face à son club formateur qui avait les jambes pour honorer sa première avec l'Olympique de Marseille. Ibrahima, qu'est-ce que t'en as pensé?
Bah, comme tu l'as dit déjà en première mi-temps, franchement c'était très poussif des deux côtés, on n'a pas vu grand-chose. Et en seconde période, c'est là que tout s'est décanté. Lyon, qui avait fait plutôt une bonne entame de seconde période, on l'a vu avec Tolisso qui a failli marquer coup sur coup. Et puis après, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ils se sont un peu... Je ne sais pas, Lyon est retombé dans ses travers et Marseille a su saisir l'occasion pour aller remporter ce match. Après, sur le pénalty, c'est assez discutable, mais je pense que ça peut siffler comme ça peut ne pas siffler par rapport à la main de Rabiot. Mais ce n'est pas un scandale que l'arbitre ait sifflé cette main. Mais oui, comme tu l'as dit, victoire assez méritée de l'Olympique de Marseille qui, malgré sa défaite à Nice la semaine passée, est quand même, je trouve, sur une bonne lancée. Je vois pas trop d'effet de Zerbi au niveau du jeu, mais ça gagne les matchs, c'est efficace. Et par contre, Lyon, ça me fait un peu peur. Ouais. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je pense qu'on en parlera, mais il y a eu un changement de coach. C'était la première de Fonseca. J'ai pas trop... Personnellement, j'ai pas trop compris la décision de virer Pierre Sage. Après, John Textor a ses raisons, on en discutera, je pense, mais ouais, l'avenir a l'air assez sombre pour Lyon, surtout que le mercato n'est pas fini, il reste quelques heures. J'espère qu'il n'y aura pas trop de trop gros mouvements du côté des départs côté lyonnais, parce que ça risque d'être assez compliqué sinon.
Cherki, en tout cas, Cherki, apparemment, il reste. Ça
oui,
ne bouge pas.
De Dortmund, c'est ça.
Oui, ça ne bouge pas, apparemment. Il a été inflexible là-dessus. Et John Textor s'est exprimé aussi sur le cas de Pierre Sage. Il a demandé si. Il a fait un conseil. Et apparemment, il a demandé est-ce qu'on doit virer le coach ? Première question. Est-ce qu'on doit prendre un autre coach ? Ils lui ont dit non. Ils lui ont dit est-ce qu'on peut avoir la Ligue des Champions et la Ligue Europa cette saison ? Avec ce coach, ils lui ont répondu que non. Et il leur a posé une troisième question. Il leur a demandé, je vous repose la première question, est-ce qu'on doit virer le coach, oui ou non ? Non, la troisième question, c'était, est-ce qu'on doit s'asseoir sur nos objectifs qu'on avait cette année-là ? Ils leur ont dit pas du tout. Alors, il lui a posé la quatrième question, qui était la première, est-ce qu'on doit virer le coach ? Ils lui ont répondu oui. C'est ce que John Textor a dit au micro, en tout cas. Et il s'est exprimé là-dessus. C'est ce qu'il a dit. Léo, je suppose que toi, tu n'es pas spécialement fan de comment ça s'est fait, surtout aussi, et la manière. Quand on repense à ce que Pierre Sage a fait avec l'Olympique Lyonnais, aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais ne serait sûrement pas européen aujourd'hui sans cette montée fulgurante que Pierre Sage a fait avec lui, malgré lui. Et il y en avait plusieurs qui avaient essayé et qui n'avaient pas réussi, comme Grosso, comme d'autres joueurs, comme d'autres entraîneurs que j'ai plus en tête, bien évidemment, juste avant, qui ont essayé et qui n'ont pas réussi. Et Pierre Sage a réussi à faire ça. Et là, se faire virer d'un coup comme ça, c'est...
Alors personnellement, j'en avais un petit peu mitigé sur le dossier Pierre Sage, parce que je pense que en soi, la décision de le virer, au vu du jeu proposé par rapport à tout ce qu'il dit, par rapport aux résultats récents, c'est pas une décision... On peut la critiquer... On peut en débattre, mais ce n'est pas la pire décision de l'histoire, selon moi. Pour autant, la manière de faire et le timing sont très mauvais. Si tu avais attendu le match d'hier pour le virer après une nouvelle défaite, ça aurait légitimé ta décision. Le fait que tu sois là, tu publies un communiqué, enfin l'OL publie un communiqué, le club a été contraint de virer Pierre Sage, le club n'a pas été contraint, le club a décidé. Je trouve que la manière n'est pas bonne. Après, on peut débattre, est-ce que aujourd'hui Pierre Sage pouvait amener l'OL vers ses objectifs ? Je ne sais pas. Parce que même si on se souvient l'an dernier, alors c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Voilà, aujourd'hui, il est entré littéralement dans la légende du club. Pour autant, dans le jeu, c'était loin d'être, par rapport à ce qu'il lui voulait, c'était loin d'être concordant. Alors, il y a plusieurs raisons. L'effectif, les joueurs qui ne voulaient pas forcément y mettre du leur à certains moments, les adversaires rencontrés et tout. Il y a mille raisons. Après, je pense qu'il ne faut pas oublier que là, aujourd'hui, l'OL a recruté Fonseca. Fonseca, si on n'avait pas eu Pierre Sage avant, c'est une référence aujourd'hui, on va dire, sur le plan européen, qui a entraîné l'AC Milan récemment. Ce qui en dit long quand même sur son niveau. C'est un entraîneur que l'OM voulait avant de pouvoir faire De Zerbi. C'est quelqu'un qui a des références en Ligue 1 avec Lille. Moi, je pense que c'est un très bon choix de prendre Pierre Sage, de prendre Fonseca. Mais la manière dont a été viré Pierre Sage, effectivement, ça, on peut le critiquer.
Merci, Léo. Est-ce que c'est pas difficile aussi dans cette ambiance où on est en plein mercato, où on sait que là c'est comme si on était, c'est pire qu'un mercato d'été, j'ai envie de te dire, parce que c'est plus court, et en plus de ça tu sais que n'importe quel joueur peut partir, et quand tu sais que Cherki est l'un des membres fondateurs et qu'on l'entend partir ailleurs avant que là ça soit confirmé par Textor comme qu'elle ne partira pas, avant ça il disait s'il y a une offre sur la table, il part. C'était ça. Est-ce que c'est pas difficile de travailler avec une équipe comme ça ? Et est-ce que ça ne prend pas un minimum de temps pour vraiment imposer un rythme à l'équipe et un style de jeu en Ligue 1 et en Europe aussi, Lucas ?
Moi déjà, ce que j'interroge, c'est ce qu'on disait un peu la semaine dernière, tu sais, c'est que le contexte, il a pu marquer non seulement les joueurs, mais aussi l'entraîneur. Donc je pense qu'en fait là, ils sont rentrés lui dans une espèce de spirale négative où depuis quelques semaines, Le coach ne sait pas s'il va rester. Les joueurs savent qu'ils sont tous transférables. Tu parles de Cherki El Hadj. Après, Cherki, c'est quand même un joueur qui était annoncé partant déjà en été. C'est pas un des joueurs les mieux installés dans l'effectif. Mais de voir qu'à ce point-là, tous les joueurs, donc y compris Cherki qui est très performant cette saison, mais quasiment tout l'effectif est disponible, je pense que ça aide pas les joueurs à avancer sereinement. Et je pense que ouais, tout ça, ça a un impact sur les résultats de Lyon récemment.
Parce qu'il me semble qu'ils avaient des bons résultats juste avant que la trêve commence. Hein, il y avait quand même de bons résultats. Faut pas oublier, ils sont quand
jusqu'au
même sixième. Voilà, jusqu'au parc. Ça allait.
Depuis, ils ont plus gagné en Europa League depuis. Même... Ils gagnent plus en championnat.
Ouais. Mais c'est depuis que la trêve a commencé.
C'est ça, parce que le banc est parti aussi.
Aussi.
Ils ont plus de banc.
Oui, il y a des joueurs qui.
Ouais. Mais ce qui est paradoxal.
Et la blessure aussi de Malik Fofana.
Aussi.
Ce qui est après la blessure de Malik Fofana, pardon, elle intervient à un moment où Malik Fofana, ça fait plusieurs semaines déjà qu'il est plus au niveau.
Même s'il est plus au niveau, on sait très bien Malik Fofana, il peut revenir à tout moment.
Oui,
on le sait, certes. Il peut revenir à tout moment. Et même Malik Fofana était stipulé dans les ventes. Il y en a qui voulaient servir de ça, qui savaient que l'OL n'était pas en bonne position et qui voulaient faire des offres pour Malik Fofana pour le prendre. Et on ne sait pas.
Après, le dernier truc que je peux rajouter par rapport au Mercato, c'est qu'au final, si tu regardes, en sachant qu'au 1er janvier, l'OL savait qu'il ne pourrait pas recruter, mais parvient quand même à avoir Almada, plus devait vendre. Si tu regardes par ce prisme-là le Mercato de Lyon, il est bon au final. Tu te débarrasses de gros salaires, avec Lopez par exemple. Tu te débarrasses de joueurs qui, aujourd'hui, dans ton effectif, c'est... Quand je vois Cacré qui part à 15 millions à Com, tu me dis avant le mercato, il y a un club qui va poser 15 millions sur Cacré dans l'état de forme qu'il affiche depuis 6 mois, c'est presque inespéré. Saïd Benrahma, c'est un bon joueur qui n'a pas répondu aux attentes non plus, même s'il avait des statistiques. Option d'achat à 15 millions aujourd'hui. Tu as quand même des joueurs qui sont partis, il y a un travail qui a été fait. Maintenant, le problème,
Orban.
C'est Orban qui est parti à Hoffenheim contre 9 millions.
Oublié.
Au final, c'est un bon mercato réalisé par l'OL dans le contexte actuel, dans le contexte du club. Par contre, effectivement, aujourd'hui, il va falloir composer avec un effectif de 23-24 joueurs, avec peut-être la montée de certains jeunes qui vont arriver. Donc maintenant, c'est à Fonseca de travailler.
Est-ce que tu penses que Fonseca peut réussir avec cet effectif de Lyon à aller chercher une place dans le top 4 de Ligue 1 et en plus gagner la Ligue Europa, Alexandre?
Pour la première partie de la question, non. Pour la deuxième, oui. Je pense que là, aujourd'hui, ça va être plus, pas simple, mais plus abordable pour Lyon de gagner la Ligue Europa, parce que je pense que ça va être plutôt une équipe de coupe. Ils peuvent être galvanisés dans les gros rendez-vous. Alors que c'est vrai que le championnat, je pense que ça va être un peu plus compliqué, parce qu'il y a des équipes comme Marseille, les concurrents directs, hein, Marseille, Monaco, Lille, qui sont beaucoup plus... constant, sérieux et cohérent dans ce qu'ils font et qui ont un meilleur effectif aussi que Lyon, donc ça va être plus simple, je pense. Et puis même on sent qu'il y a une petite fin de cycle pour Lyon. Il y aura un gros travail, je suis d'accord avec Léo, le mercato hivernal il est plutôt bon quand tu prends de la hauteur et du recul, mais il y aura quand même un gros chantier en été à arriver. Est-ce que Fonseca il aura les joueurs, il va avoir les joueurs qui va demander, etc. Ça c'est un autre débat, mais là pour se concentrer cette saison dans le championnat, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Même Nice qui est un peu en dents de scie en ce moment, je pense qu'ils sont plus un concurrent aux places européennes que Lyon. Donc Lyon, la Ligue des Champions, en tout cas ça va être vraiment compliqué, je pense, à aller chercher. Après la Ligue Europa, voilà, ils se sont qualifiés dans les 8, ils peuvent faire des fulgurances en Ligue Europa, donc je pense qu'ils peuvent faire un bon parcours et pourquoi pas aller la chercher, mais bon, ça c'est autre chose.
C'est autre chose et c'est sûr que ça ne sera pas tâche facile. Hein. On va revenir sur la performance de Lyon aussi face à Ludogorets, où il y a eu un triste 1-1. Et franchement, Ludogorets ne méritait même pas de perdre, en plus c'est ça le pire. Hein. C'est pas comme s'il méritait de perdre, mais bon, on va revenir là-dessus. Hormis l'Olympico, Marseille qui ont réalisé la bonne opération, bien évidemment, en s'imposant avec Guiri qui est arrivé assez rapidement et qui a joué assez rapidement aussi dans la foulée. On entend parler de Bennacer qui arrive dans les dernières heures. Quelques petits problèmes administratifs qui vont se régler très rapidement, je suppose, et que ça sera aussi. C'est quand même une bonne recrue du côté marseillais. Et quand on parle de recrue, moi je pense aussi on y reviendra bien évidemment, mais c'est une petite parenté, à Randal Kolo Muani qui se relance du côté de la Juventus et qui est à 3 buts en 2 matchs. Voilà, Randal Kolo Muani qui a réalisé auteur d'un doublé hier face à Empoli et qui permet à son équipe de s'imposer 4-1. On va parler bien évidemment du magistral Dembélé qui a réalisé ce que personne n'a réalisé avec le Paris Saint-Germain, 2 triplés en 2 matchs consécutifs en compétition officielle. Ousmane Dembélé qui aurait misé une pièce sur lui, qui aurait pu faire tomber ce record. Ousmane Dembélé tout simplement, on va revenir sur la Ligue des Champions juste après, mais en Ligue 1 déjà, face à Brest. Brest qui seront les prochains concurrents du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, en 8e, ce qui n'était plus arrivé depuis 2010. Hein. On se rappelle, en 2010, c'était Bordeaux face à
Lyon.
C'est ça, Bordeaux face à Lyon en 2010. Et là, on retrouve 2 clubs français en 8e de finale, en 16e de finale. Du coup, on est sûr d'en retrouver au moins un en 8e de finale. Et tout de suite, la pression a été mise. Hein. On a vu le Paris Saint-Germain dérouler avec 5-2, même si le score ne reflète pas forcément ce qui s'est passé dans le match, avec une belle équipe de Brest aussi qui ont essayé de jouer avec les moyens. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Ibrahima, et de Dembélé surtout, qu'on a beaucoup critiqué.
Oui, c'est vrai.
Qu'on a beaucoup critiqué, même sur ce plateau, on l'a beaucoup critiqué. Là, je pense que il faut le dire, c'est important, il faut le dire.
Ouais, donc par rapport au match dans sa globalité du Paris Saint-Germain face à Brest, déjà, c'était un bon match de foot déjà, pour commencer. Il y avait pas mal de buts, du spectacle, ça allait dans tous les sens. On sent que les deux équipes jouent les Coupes d'Europe cette année. Après, il y a des joueurs comme Kvaratskhelia, il n'est pas mauvais, c'est son deuxième match, il me semble, en tant que titulaire au Paris Saint-Germain. On sent que physiquement, il va falloir qu'il se muscle un petit peu, parce qu'il tombe un peu beaucoup, je trouve. Et on sait que la Ligue 1, c'est un championnat assez physique, et il le ressent bien. Et sinon, non, pour la performance globale du PSG, ils sont sur une bonne lancée là, ces derniers temps. C'est pas encore forcément flamboyant dans le jeu. Ça encaisse toujours pas mal de buts, je trouve. Ouais. Mais c'est déjà mieux que ce qu'on avait vu auparavant. Et par rapport à la finition, moi j'ai toujours été contre le fait de jouer son numéro 9, mais Luis Enrique commence un petit peu à me convaincre. Parce que
Il joue 9 en vrai, hein. Il joue faux 9, Ousmane Dembélé.
Faux
9,
mais il n'a pas les aptitudes de Gonçalo Ramos, par exemple.
Bien évidemment.
Ça reste différent.
Bien évidemment, ça reste
différent. Et les 3 de devant permutent beaucoup. Donc, que ce soit avec Doué ou même Kanginli, ça permute beaucoup. Et je pense que ça sème le trouble dans les défenses adverses. Et on voit, oui, quand Dembélé est à droite devant le but, ou même Barcola qui en ce moment retrouve des couleurs, forcément ça. C'est assez efficace et donc il y a
Barcola d'ailleurs qui joue à droite en ce moment aussi,
qui joue à droite,
qui arrive à s'adapter.
Mais forcément c'est efficace et ça aujourd'hui Paris est à 10 points du second. C'est en Ligue des Champions maintenant, j'attends de voir ce que ça va vraiment donner face à des grosses équipes.
De toute façon, après
pour revenir face au 16e de finale face à Brest, je pense que le Paris Saint-Germain va sortir vainqueur quand même si les Brestois quel que soit le scénario, je pense que Paris finira par gagner parce que c'est des équipes qui se connaissent beaucoup trop et je pense pas que Brest puisse créer la surprise.
Brest qui n'ont pas battu le Paris Saint-Germain depuis 1982, compétition officielle.
Ah ouais. C'est dur celle-là.
C'est pas rassurant pour eux.
C'était la petite.
Mais ouais, non, sinon le PSG est une bonne dynamique et même les entrées de Gonçalo Ramos qui rentre souvent, il marque. J'ai l'impression que Luis Enrique commence un peu à trouver son rendement avec une certaine base de joueurs. Il s'est séparé de certains, donc Kolo Muani dont tu parlais. Il y a des nouveaux qui sont arrivés comme Kvaratskhelia. On verra ce que ça va donner sur cette deuxième partie de saison, mais pour l'instant, ça me plaît plutôt bien.
Bien évidemment, il a trouvé, on va dire, la formule magique. Hein. C'est bien le Paris Saint-Germain, il a trouvé la formule magique. Et est-ce que cette équipe qui commence à monter en puissance un peu comme les grosses équipes qu'on attend au mois de février, mois de mars, peut arriver et peut espérer d'aller au bout de cette Ligue des Champions, Alexandre. En sachant qu'ils affrontent ton club de cœur, on peut dire ça, c'est possible que ça soit Liverpool,
soit
Barcelone. Je ne sais pas d'ailleurs, c'est sous quoi qui.
D'ailleurs, c'est complètement injuste. Ça paraît qu'il finit 15e quand même, donc la première partie des équipes en 16e finit par rencontrer le premier ou le deuxième. Mais c'est assez particulier quand même.
Moi, je trouve que c'est plus injuste justement pour les premiers. Pour moi, le,
ah, mais c'est injuste pour les deux.
Logiquement, le premier devrait rencontrer le 24e.
Ouais, quelque chose comme ça.
Le
ouais.
deuxième, le 23e. Parce que sinon, au final, tu termines premier. Bon, c'est bien, t'es qualifié dans les 8 directement. Mais c'est vrai que tu peux tomber sur un gros. Parce que tous les ans, je pense qu'il y aura un ou deux gros qui arriveront pas à se qualifier dans les 8. Ça, c'est, je ouais. pense, c'est évident.
Et pourquoi, en fait, je comprends pas pourquoi c'est Liverpool ou Barça. En fait, je comprends
ouais,
pas.
Je comprends pas
ou...
pourquoi ce serait pas
je
le
sais pas
premier
pourquoi c'est pas...
ou directement.
Oui, mais je sais même pas directement. Voilà.
Ouais, je comprends pas. Pourquoi c'est
le...
en fait,
comme, je crois que, comme ils jouent tous un 16e et que tu sais que le, on va dire le 9e joue le 23e, ils se disent que le 9e va sûrement être qualifié et que peut-être c'est pour ça qu'ils le font pas jouer contre le 1er ou le 2e en disant que le 9e, le 10e, le 11e, c'est les équipes les plus fortes. Et comme Paris, c'est 15e contre 16e, c'est vraiment le ventre mou. Pour être sûr qu'ils aient pas un gros tirage, je vois que ça comme explication, mais c'est vrai que c'est.
Ouais, moi, ce que je comprends pas, c'est le Liverpool ou le Barcelone. C'est ça que je
premier
comprends.
Premier ou deuxième
ouais, un ou deux.
Premier
ouais,
ou deuxième.
Je comprends pas. Ça, ça, mais c'est quoi ? Ils vont jouer ? Ils vont faire un tirage au sort ?
Il y a un deuxième tirage au sort.
Deuxième tirage au sort.
Ouais.
C'est un peu bizarre.
Après le 16e de finale, il y aura un tirage au sort pour voir qui jouera qui en
Ligue. Mais par contre, le premier ou le deuxième, c'est sûr qu'il recevra le retour. Par contre. Donc, par exemple, s'il tire Barcelone, c'est sûr que le retour
l'équipe
se fera à Barcelone.
Ouais, ouais. Reçoit un 8e dans, ouais. dans tous les cas.
Ça, c'est enfin, bien pour Lille.
Oui, bon, c'est après, fin, ouais, c'est vrai que ça, c'est une formule un peu. C'est un... Bon, après, c'est une expérimentation. Hein. Peut-être que l'année prochaine, ils vont changer. C'est vrai que bon, je trouve ça un peu bizarre. Mais en tout cas, bon, c'est un peu trop tôt pour le dire pour Paris. C'est quand même trop tôt parce que c'est beaucoup trop tôt. Mais en tout cas, moi, je suis content pour Luis Enrique parce que là, on trouve quand même une. Enfin, on commence à trouver de la cohérence semaine par semaine et puis de l'efficacité offensive, ce qui manquait beaucoup. Et en plus de ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve, à l'image de Dembélé justement, qu'on dirait que le groupe vit bien. Je trouve qu'on dirait qu'il y a vraiment une osmose collective qui est en train de se créer. Dembélé, moi j'ai toujours beaucoup de réserves sur ce joueur, la vérité. Mais il a l'air d'être en mission en tout cas, et quand il est à ce niveau-là, il fait partie des joueurs inarrêtables. Donc c'est une bonne chose, peut-être qu'il peut... Il peut porter son équipe dans les gros matchs, peut-être, mais après ça va dépendre du tirage en fait, c'est... Enfin, et encore, parce que Barcelone ou Lille ou Liverpool, pardon, ça va être forcément une confrontation compliquée. Après, contre Brest, moi je suis d'accord avec Ibrahima. Enfin, bon, si Brest passe, franchement, bravo à eux, hein, sera excellent et tout. Mais déjà, je trouve que c'est vraiment dommage qu'ils rencontrent Brest. Et ouais. en plus de ça, bon, après, ça, c'est comme ça, hein, on peut pas trop y faire, mais c'est dommage. Et je pense qu'ils vont passer, il n'y aura pas de détails. 3-0 aller, 3-0 retour. Enfin, façon de parler, mais je veux dire, ça va être. Il y aura pas, il y aura, je ne pense pas qu'il y aura un si gros match que ça, la vérité. Je pense que, que Paris va vraiment se mettre en mode focus et va passer. Mais pour répondre à ta question, en tout cas, d'origine, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Beaucoup trop tôt.
Okay. Je te l'ai posé spécialement. Hein, j'ai laissé le débat ouvert spécialement, mais on va y revenir sur la Ligue des Champions. Là, on va parler que de la Ligue 1, de Ousmane Dembélé, ce qu'il a fait, le triplé face à Brest, et qui enchaîne les performances avec les buts aussi. Dernièrement, hein, sur les 6 derniers matchs, il doit être à 9 buts, à peu près 9 ou 10 buts.
En tout cas, il est à 19 buts en 23 matchs cette saison, toutes compétitions confondues.
Voilà.
C'est largement mieux que ce qu'il a fait tout le temps jusqu'à présent.
Oui, c'est le meilleur buteur 2025, de l'année 2025.
Ouais, j'ai vu ça,
ouais. Ouais. Et voilà ce que tu peux nous dire sur le Paris Saint-Germain et sur Monaco aussi, hein, qui se sont imposés 4-2 à Auxerre avec un triplé de la nouvelle recrue Bierrette.
Ouais, voilà, c'était pour l'attaquant qui leur manquait, Bierrette. Ouais.
Bah, Bierrette, là, en tout cas, un jeune, hein, il est très jeune.
Il est un peu plus à droite que Mbolo, donc ça suffit en fait pour
ouais,
faire.
Que Mbolo et que
Balogun. Il est Nikena, ouais.
Ouais, aussi.
Il est tout jeune, lui.
Il est tout frêle.
Ouais. Du coup, Monaco, du coup, ça enchaîne, c'est bien. On voit quand même que cette semaine, les gros ont gagné. Et pour le PSG, c'est vrai que moi, je vois une vraie différence entre Dembélé d'il y a deux mois et le Dembélé de maintenant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais j'ai l'impression.
J'ai déjà vu cette différence.
Ce body language qui est différent, le fait qu'il rate absolument rien depuis un mois et demi, il rate absolument rien.
Ça lui était arrivé au Barça une période.
Voilà, il avait sa dernière saison,
il avait il avait des bonnes périodes, mais pas létales. Parce que là, ça fait quand même deux matchs qui sortent et à chaque fois, il n'y a pas un geste qui
était monstrueux.
J'ai vu des excellents matchs de Barcelone à Dembélé à Barcelone, mais je ne me souviens pas d'une période aussi longue comme ça.
Parce que c'est une période aussi longue.
Où il joue comme ça.
Bah, il a fait deux matchs, quoi.
Non, mais même là, je te dis depuis le début de l'année.
Alexandre, excuse-moi, mais non, il a fait plus que deux matchs.
Non, mais vraiment, ça fait une dizaine de matchs que je dis, même s'il marque pas, mais parce qu'il a pas marqué tout le temps, mais même s'il ne marque pas récemment, il rate beaucoup moins de gestes. Ça veut dire moins de passes, tu sais, en sortie de dribble, les passes où il fait n'importe quoi, etc. Ce genre de choses, on le voit presque pas. Et moi, je trouve qu'il y a une espèce de métamorphose depuis un mois et demi.
Bien sûr que je caricature, il a fait peut-être 3-4 matchs, quoi. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que faut vraiment poser des réserves sur ce joueur.
Écoute, moi j'ai envie de m'enflammer aujourd'hui. Maintenant, je te dis qu'il va garder ce niveau-là.
Il a 27 ans.
Et alors, il n'y a pas d'âge pour exploser.
Il est au meilleur de sa forme.
Gyökeres, il a 25 ans, il est en train d'exploser au Sporting. Personne ne se dit qu'il va redevenir nul comme il y a 3 ans.
Mais rien que pour toi, je te le demande.
Aujourd'hui, je vais m'enflammer.
Parce que j'ai pas envie de te ramasser à la petite cuillère après.
Mais moi, je dis pas que Paris va se qualifier en Ligue des Champions. Je dis que simplement, j'ai l'impression que le PSG.
Paris sont déjà
posés des réserves. J'espère qu'il va faire mentir.
En Ligue 1, s'il te plaît, Lucas, parle-nous de la Ligue 1.
Pour la Ligue 1 aussi, j'ai l'impression que Luis Enrique, en fait, il a trouvé sa formule avec Gonzalo Ramos qui peut faire de la concurrence à Dembélé au poste de 9, Guaracchella qui va arriver à gauche pour prendre la pose de titulaire, Barcola qui peut basculer à droite et Doué de toute façon qui a un super sub parce que dès qu'il rentre il est juste trop fort et voilà peut-être mais voir plus qu'Anguilin au milieu.
Là, le perdant c'est Gonzalo Ramos en tout cas.
Dans tous les cas il n'aurait pas joué franchement.
Oui non, je suis d'accord avec toi mais cas, là c'est charmant
quoi. Il met encore un doublé même si le deuxième il est chanceux là le week-end dernier. Gonzalo Ramos j'ai l'impression que quoi qu'il fasse Luis Enrique n'aime pas son profil donc il pourrait être aussi bon qu'il veut. Il le fera pas jouer, il sera pas titulaire indiscutable, donc il aura jamais assez de confiance et de continuité pour être, pour donner la version, meilleure version de lui-même. Donc moi, à partir de ce moment-là, je vois uniquement Dembélé être conforté dans son rôle et je vois, moi, je pense qu'il va finir en boulet de canon. Et Dembélé, je le vois pas ralentir, en tout cas, on verra. Que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions,
merci.
Il va continuer comme ça.
Merci Lucas, Léo. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de la performance de Monaco et du Paris Saint-Germain aussi ?
J'ai pas vu le match de j'ai vu la fin seulement du match de Monaco. Du coup, l'entrée de Biret, le triplé en 8 minutes, il me semble. Ouais. Il avait déjà marqué la semaine dernière pour son quatrième match, il me semble, avec Monaco. Attaquant, j'adore ce type d'attaquant qui bouge un peu partout, qui provoque, qui fait des appels, qui vient chercher le ballon un peu plus bas, qui se la donne, quoi, qui court, qui fait plein de choses. Concernant le Paris-Brest là, qu'on a vu, le Brest-PSG pardon, je pense qu'en fait c'est juste un échantillon de ce qu'on va voir sur les deux prochains matchs. Les 5 buts du Paris Saint-Germain, ils sont venus au moment où ils ont voulu accélérer, c'est eux qui ont dicté le rythme de la rencontre. Quand ça a été un petit peu moins bon, Brest a, à mes yeux, a essayé de faire avec ce qu'ils ont, mais la différence elle est claire. Je pense qu'il y a deux classes d'écart entre les deux équipes. Concernant Dembélé, il est sur une énorme forme. Je pense que on va attendre un petit peu, effectivement, encore de voir contre des vrais adversaires, puisque les grands adversaires auxquels le PSG a été confronté cette saison, notamment en Ligue des Champions avec Arsenal, le Bayern ou l'Atlético, avec des styles de jeu différents d'ailleurs, puisque Arsenal et l'Atlético, c'est totalement l'opposé. On a vu ce que ça a donné, il y a eu des difficultés. Voilà, de toute façon, ils vont vite être fixés, puisqu'ils vont affronter effectivement Liverpool ou le Barça. Et ça dictera aussi leur fin de saison en Ligue 1, parce que si tu passes un petit peu les tours en Ligue des Champions, tu risques forcément de perdre de l'énergie, lâcher des points en Ligue 1, peut-être un petit peu, je pense qu'ils finiront bien évidemment champions, ne pas être en capacité, parce que tu as un effectif qui est quand même intéressant, mais je pense que sur... S'il y a un enchaînement de matchs, j'ai pas le calendrier de Ligue 1 en tête, mais un petit peu costaud, tu peux peut-être concéder une défaite alors que tu n'en as pas encore concédé cette saison. Mais je pense que Paris va tranquillement aller chercher le titre. Ils l'ont d'ailleurs depuis quelques semaines déjà. Et puis voilà quoi. Je pense que tout est dit sur tout a été dit sur le PSG actuel.
Merci Léo. On va se faire une petite virgule avant de revenir bien évidemment sur la Ligue des Champions. Hein, et on va revenir sur le Paris Saint-Germain qui s'impose à Stuttgart 4 buts à 1 grâce à un triplé de l'inévitable Ousmane Dembélé. Mesdames et messieurs, on arrive. Dembélé. C'est comme ça qu'on le surnomme apparemment cette semaine. Et voilà, en tout cas, vous pouvez le surnommer comme vous voulez. Mais ça en fait marrer plus d'un d'ailleurs. Mais Dembélé a réalisé encore un joli coup du chapeau avec le Paris Saint-Germain face à Stuttgart. Et le Paris Saint-Germain qui se sont imposés assez aisément, 4 buts à 1 face à Stuttgart. Et franchement, il n'y avait pas de discussion, il n'y avait pas de bataille. Ils sont arrivés, ils ont pris les 3 points d'une manière époustouflante, on peut dire ça comme ça, que ça soit dans le jeu, que ça soit en termes de finition. À la mi-temps, c'était bouclé, quoi. À la mi-temps, il y avait 3-0, et à la mi-temps, c'était bouclé.
Ouais, première mi-temps très sérieuse. Qui aboutit, comme tu le dis, sur les 3 buts d'avance. On voit qu'en plus, ça a été assez varié. Parce que le premier but, c'est sur coup de pied arrêté avec une belle déviation de Doué. Et après, c'est des buts où tu vas dans la profondeur, tu prends l'espace. On voit que on n'a pas vu déjà beaucoup le PSG comme ça. On restait sur une très belle deuxième mi-temps au parc contre Manchester City. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas vu Paris faire preuve de maîtrise quasiment pendant tout un match. Je dis quasiment parce que quand même la réduction du score qui fait un petit peu tâche, c'était pas, voilà, ça aurait été mieux de repartir avec le clean sheet. Mais on voit que globalement, Paris a vraiment dominé les débats, a réussi dès le début à pas faire en sorte que ce soit un match piège. Donc moi je trouve que c'est très positif et on voit vraiment quand même une dynamique. Contrairement à ce que dit Alexandre, ça fait un peu plus de 3-4 matchs que ça dure et j'ai l'impression qu'en fait là, même si on parle effectivement que Paris n'a pas été à la hauteur dans les chocs contre Manchester contre Atlético de Madrid, Arsenal, Bayern ou autres,
en termes de finition,
mais tu vois, même ça je suis pas d'accord parce que je pense que en première mi-temps, il y a autant de situations que dans tous ces matchs là, ouais. Tu vois, contre Stuttgart et même franchement pendant les 10 minutes à 2-2 contre City, il y a tellement d'opportunités pour Paris que des fois, tu vois, contre le Bayern, par exemple, on se contentait de moins de situations pour tout un match et on disait quand même ils ont réussi à les déséquilibrer. Paris montre que quand ils veulent être agressifs à la récupération et aller vite vers l'avant, ils arrivent à se procurer énormément de situations. Donc tout ça pour dire que j'ai l'impression que c'est plus la même équipe en fait. Que là, Luis Enrique, il a trouvé son 11, il a trouvé les joueurs qu'il veut utiliser, il sait parfaitement comment il va les utiliser. Les recrues sont pleinement acclimatés au club. Donc je pense que ouais, Paris est sur une grosse dynamique et je les vois bien continuer comme ça.
Merci Lucas. Ibrahim, hein, qu'est-ce que tu en as pensé de Dembélé en Ligue des Champions, du Paris Saint-Germain dans toute sa splendeur et qui s'impose à Stuttgart, hein. On voyait un match difficile pour le Paris Saint-Germain. Non, au contraire, ça a été un match super facile, on peut dire ça comme ça, qui se sont imposés chez les Allemands assez largement avec un match sérieux, que ce soit de la défense à l'attaque. Et voilà. Avec un bon Donnarumma aussi, il faut le souligner.
C'est ce que j'allais souligner. J'ai bien aimé la performance de Donnarumma. Il fait un super barré en première période. Après, pour revenir à Stuttgart, honnêtement, avant le match, je pensais que ça allait être assez compliqué. Avant la rencontre face à City, plutôt, je pensais pas que le PSG allait s'imposer aussi facilement face à Stuttgart. J'avais peut-être surcoté cette équipe, je sais pas. Je les voyais plus forts que ça, en tout cas.
Bah, ils ont réalisé de bonnes performances.
Oui, donc ils n'ont pas été mauvais en Ligue des Champions. Hein, ouais. Ils sont quand même qualifiés, mais je ne pensais pas qu'ils allaient prendre l'eau comme ça face au PSG. Et puis après, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Hein. Il me fait un peu penser au match du PSG face à Salzbourg aussi.
Enfin, Salzbourg, c'était vraiment très très faible. Là, hier, il y avait un petit semblant de répondre.
Il y a plus de niveau. C'était vraiment faible.
Sur ce match-là, Stuttgart n'était pas bon, mais c'est sûr que sur la saison...
Ils ont été faibles contre un bon Paris, alors que... Salzbourg avait été mauvais contre un mauvais Paris.
Mauvais contre tout le monde, oui, c'est vrai, de toute façon. Mais oui, pour revenir sur ce match, non, c'est une belle victoire du PSG. Et puis le triplé de Ousmane Dembélé, si ça peut le mettre en conscience et faire en sorte qu'il puisse en mettre d'autres, comme il a pu le faire ce week-end, tiens, face à Brest en championnat, tant mieux. Et comme j'ai dit, on sent que Luis Enrique commence à trouver un rendement en fait avec certains joueurs. Donc c'est ça qui me fait plaisir. C'est qu'on sentait que la première partie de saison, il cherchait beaucoup, ça permutait beaucoup. Et malgré ses erreurs, on sentait qu'il n'était pas forcément toujours très sûr de ce qu'il faisait. Alors que là, on sent qu'il y a beaucoup plus de confiance et de valeur sûre quoi, dans cette équipe. Même s'il y a des joueurs, comme Fabian Ruiz par exemple, ça pour le coup, c'est peut-être le point faible
Même lui, il est moins mauvais en ce moment.
Moi, je trouve pas aussi mauvais.
Je trouve que contre City, il fait une première mi-temps très correcte. D'accord. Quand Zaïre Emery rentre, tu vois qu'il est meilleur. Mais je trouve que la première mi-temps.
Il y a 0-0 à la mi-temps. Et dès qu'on revient de mi-temps, il se fait sortir au bout de 15 minutes. On se prend deux buts.
Mais on prend deux buts bêtes où il est pas spécialement. Mais en tout cas, je trouve que même lui, il arrive à être correct en ce moment. C'est tout ce que je voulais dire.
Non, il est bon quand en équipe d'Espagne. Moi, je me suis fait à l'idée qu'il était bon quand sélection. En fait.
Marco Asensio d'ailleurs qui a été prêté à Aston Villa.
Ouais, tant mieux.
Ah ouais,
non, c'était plus possible ça aussi. Mais ouais, non, sinon, le seul point noir de cette équipe c'est Fabian Ruiz. Moi, franchement, pourtant, je lui ai laissé pas mal de choses. À chaque fois, je me disais, bon, avec l'euro qu'il a fait, il peut pas venir jouer comme ça au Paris Saint-Germain. C'est ce que j'ai toujours du mal à comprendre.
Ça doit être un leader
d'ailleurs.
Pour moi. Moi, j'attends de lui au milieu de terrain
avec
Vitinha.
Pour le montrer.
Au milieu de terrain avec Vitinha et Raúl Félix, je sais pas quoi. João Neves, qui fait des misères au milieu de terrain et qui a à peine 20 ans, il me semble. Et Fabian Ruiz, avec ce qu'il montre en Espagne et ce qu'il montre en truc, c'est vraiment deux visages controversés où, franchement, j'arrive même pas à voir quel joueur est super bon en sélection et aussi mauvais en club quoi.
J'ai pas le souvenir d'un bon match cette année. de Fabián Ruiz. Mais il y a, y a plein de joueurs dans ce cas-là. Hein,
oui, non, il y en a, mais un visage aussi grand, quand même,
ça a été. Récemment, Griezmann, quand il était à Barcelone, il était catastrophique. Quand il
non,
était
je
ne
suis pas d'accord. Toute l'équipe de Barcelone.
Lucas Podolski.
Oui, mais toute l'équipe de Barcelone était aux abois à ce moment-là. Là, tu ne peux pas me dire ça. C'est en général, tu vois, là, avec l'Atlético, limite, il va être mieux avec l'Atlético qu'avec l'équipe de France. Non, ça, c'était un cas particulier. On parle d'un joueur sur un bon moment de sa carrière. Fabián Ruiz, ça fait un moment qu'il est au Paris Saint-Germain, ça fait un moment qu'il ne performe pas, on ne parle pas d'une saison.
Bien sûr, trois saisons là.
Bah, comme on est en pleine période de mercato, ça me fait penser qu'il va falloir recruter un milieu de terrain et se séparer de Fabián Ruiz hein, si le PSG veut aller plus loin. Non, c'est trop tard pour cet hiver-là, mais la saison prochaine, surtout que là, Xavier Emery est blessé, il va falloir faire avec lui. Franchement, ça va être compliqué hein, parce que...
En tout cas, Luis Enrique ne le dégage pas de ses plans, apparemment.
Ouais, c'est ça qui me surprend. Après, je sais pas. Après, je me dis peut-être que les consignes de jeu en équipe d'Espagne au Paris Saint-Germain sont pas les mêmes en ce qui le concerne. Mais même avec cette excuse-là, tu n'as pas le droit de faire de telles performances. Mais bon.
Ouais, on va enchaîner, bien évidemment, hein, avec aussi Manchester City, qui se sont fait peur, mais qui valident leur ticket en barrage en s'imposant 3-1 face au FC Bruges. Et qui auront défié bien évidemment le Real Madrid pour la quatrième fois consécutive en Ligue des Champions. Et aussi on a eu un Brest qui sont inclinés logiquement face au Real Madrid, hein, au Roudourou, au stade du Roudourou, c'est bien ça. Léo, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Personnellement, j'ai ni regardé le match du PSG, ni de Brest, ni de Monaco. J'ai regardé des longs résumés de chacun d'eux. Puisque moi, j'avais une petite question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de ce format du multiplex à 18 équipes ? Personnellement, j'ai trouvé ça horrible.
C'est pas du foot. C'est pas du foot.
C'est ça. Tu vois pas tous les buts.
Moi, j'ai pas regardé le multiplex. Hein, j'ai regardé qu'un match.
Moi, j'ai regardé Paris aussi.
Moi, j'ai regardé le Barça-Atalanta. Qui était sur le papier, c'était le plus beau match des 18. Voilà, je voulais juste vous poser la petite question.
Pour ma part, j'ai regardé une mi-temps de Paris, après j'ai regardé le multiplex. Bon, ça va, il y a une musique toutes les 10 secondes. C'est plutôt cool, mais sinon. En fait, on voit tout, mais on voit rien, je pense. Exactement. C'est-à-dire que tu vois rien, tu vois tout, mais tu vois rien en fait.
Ouais, c'est ça. Tu peux pas suivre déjà 18 matchs, c'est beaucoup trop.
Mais même 2, c'est pas possible.
Déjà 2, c'est très compliqué. Mais si oui, en fait, si tu zappes sur Canal, parce que c'était sur Canal Plus, si tu zappes sur Canal et que tu connais pas trop, que tu vois ça, t'es très content. Tu vois, il y a des buts toutes les 10 secondes, tu te dis c'est quoi ce sport incroyable et tout.
T'as l'impression de tout voir, comme tu dis.
Mais après, c'est vrai que c'est compliqué. Voilà.
Okay. Après, moi, je trouve que c'est compréhensible dans le format, dans le sens où il y a des clubs, on pense notamment à des matchs de la honte qu'il y a pu avoir, où il y en a qui peuvent s'arranger entre eux en sachant les scores de certains. C'est pour ça qu'ils ne les font pas en différé et qu'ils les font tous en même temps.
Oui,
je comprends la raison, le format, il n'est pas, pas top.
18, c'est beaucoup de matchs aussi.
Ah, 18, c'est énorme. C'est beaucoup de matchs. Après, voilà.
Non, après maintenant ils le savent hein, généralement les clubs à la mi-temps ils communiquent aux joueurs, même dans le stade par exemple quand Brest a marqué contre le Real, le stade de Barcelone, ils ont commencé à crier, à hurler et la nouvelle s'est fait passer rapidement que Brest avait marqué par exemple tout bêtement. Donc c'est
Liverpool, à ce point à côté Barcelone où ils sont
les
là,
gens ont les tablettes, les gens ont les téléphones.
Pareil, je savais pas qu'à ce point-là parce qu'en fait que le Real se prennent un but ou se prennent pas
font
un but.
Ils font la même chose. Ça... le Madrid, ils font la même chose qu'en Barcelone.
Non, ils font des communiqués en plus.
Ils font des communiqués et ils disent oui, les arbitres, c'est n'importe quoi. Alors que bon,
Ils font des communiqués où les. On reviendra sur la Liga. Mais je pense que là, je pense que tu es très très mal placé qu'il n'y avait pas faute sur Kylian Mbappé et qu'il n'y avait pas le rouge. C'était pas un rouge qui devait avoir le joueur.
Pour
ce week-end.
J'ai pas vu le match. J'ai même vu aucune action. J'ai juste vu l'Espagnol Barcelone qui a gagné 1-0 contre le Real Madrid.
T'as vu, d'accord. C'est bien ce qu'il me semble.
Non, en vrai, j'ai pas vu le match.
Non, mais même l'action, c'est sûr que tu l'as vu. Bon, Léo aussi va dire qu'il l'a pas vu parce que Léo, c'est un supporter du Barça refoulé.
Non, mais je l'ai vu.
Il se permet pas de le dire, mais moi, je vous le dis, attention. Léo, je sais que c'est un supporter.
Ah, mais moi, je peux le dire, j'ai même Messi sur mon porte-clé, si vous voulez.
Ah, bah voilà.
Non, non, mais bien sûr, je l'ai vu, mais c'est juste que c'est un peu. C'est quand même drôle que ce soit le Real Madrid qui se plaigne de l'arbitrage.
Oui, c'est un peu comme un hôpital qui se fout de la charité, quoi. Caissier se moque d'un caissier.
Vous me faites vraiment rire, franchement. Bref, on va continuer, on enchaîne bien évidemment. Ibrahima, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ces scores Manchester City qui se sont fait peur, mais qui valident 3-1 face à c'est Bruges. Le Real Madrid, qui sont imposés face à Brest, hein, 3-0. Sarri à pleine... Il y a un fou rire là, mais je suis pas dedans, mais il y a un fou rire autour de la table, hein, je tenais à vous le dire. Du coup, je pense que le seul qui peut s'exprimer maintenant, c'est Ibrahima. Ibrahima, je t'écoute.
Ouais, non, bah, Manchester City, on parlera de Première Ligue, donc on y reviendra, mais sincèrement, c'est... Sur la première mi-temps, ils dominent toute la première période, Bruges marque, et à ce moment-là, dans ma tête, pour moi, ils sont éliminés. Après, en seconde période, ils réussissent à revenir, mais c'est très compliqué quand même, et la confrontation face au Real Madrid, je suis un peu déçu quand même du tirage, parce que comme tu l'as dit, ça fait 4 fois d'affilée. J'aurais voulu les voir jouer contre une autre équipe, mais bon, ça reste de grosses équipes malgré
bah,
tout.
C'était soit City, soit Celtic. Moi, je voulais un Real City. Hein. Perso, pour le football,
ouais,
je voulais un Real City
qu'un
Real Celtic. Voilà quoi.
Ça reste des grosses équipes. C'est toujours beau de voir autant de stars sur le terrain, mais bon, après, ça fait quand même 4 ans d'affilée qu'on voit ça. Mais oui, non, sinon, Manchester City, oui, c'est hyper poussif et je pense pas qu'il. Je pense que la double confrontation face au Real Madrid, ce seront leur dernier match de Ligue des Champions cette année. Je ne les vois pas aller plus loin.
Tu vois pas du tout un sursaut de City sorti de nulle part.
Vu ce que j'ai vu ce week-end, franchement, non.
C'est compréhensible.
Liverpool qui n'avait plus rien à jouer et qui s'incline pour la première fois en campagne de LDC cette saison. 3-2 face au PSV Eindhoven avec une équipe notamment bien remaniée. Monaco qui se sont inclinés 3-0 face à Lautaro Martinez. De grand soir, Lautaro Martinez qui lance sa saison hein, officiellement.
Ouais, hein, c'est un peu parce que, compliqué pour Lautaro.
C'était compliqué en début de saison, mais là, ça se débloque. Hein, il enchaîne les performances et les buts aussi. Et on a pu voir aussi le FC Barcelone tenu en échec face à l'Atalanta, 2-2, et qui se qualifie directement en 8e. Lucas ?
Moi, je retiens la défaite de Monaco. Spécial pour toi, hein, le match de Marcus Thuram aussi. On sait que tu portes pas forcément Marcus Thuram dans ton cœur. Franchement, force est de constater que week-end après week-end, il est excellent avec l'Inter de Milan.
Je pense que tu ne captes pas bien. Marcus Thuram, c'est pas que j'ai dans contre lui. Je me dois de m'exprimer puisque tu m'accuses à tort. En équipe de France.
Oui,
en équipe de France surtout.
Bah,
c'est à bon titre, je sais pas, mais tu vois les performances.
Remets, tu remets en cause ses qualités, pas uniquement ses
non,
performances.
Non, mais d'accord, mais tu vois ce qu'il fait aussi en équipe de France.
Mais c'est pour ça qu'il faut prendre du recul. Voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre du recul sur ce qui se passe en équipe de France.
Oui, mais il rate des choses quand même qui sont.
Non, en fait, c'est ça. Moi, je vous parle vraiment de ça. Ça va être des gestes, des passes. Je parle pas dans le jeu. Ça va être des contrôles, des passes. La finition, c'est ça que j'ai évoqué du côté de l'équipe de France.
Il a déjà 13 buts en championnat d'Italie, donc finition.
En équipe de France.
Il n'a pas les mêmes coéquipiers en équipe de France.
En équipe de France.
Oui, c'est vrai.
Mais vous ne pouvez pas me dire que le niveau avec l'Inter est au-dessus de l'équipe de France.
Bah, au niveau actuel de l'équipe de France,
l'Inter, c'est je préfère avoir Çalhanoğlu que Tchouaméni.
Je préfère Barella que n'importe quel milieu de l'équipe de France aujourd'hui.
Je préfère Barella que
même les latéraux.
Excuse-moi, Lucas, vas-y. À part ça.
Tout ça pour dire que, hormis, parce que j'ai regardé Paris aussi, j'ai dû faire un choix pendant le multiplex. Après, j'ai vu un petit peu le match de Monaco. Et c'est vrai qu'ils perdent le match en 20 minutes, que l'Inter est super impressionnant, et c'est vrai que Liverpool a perdu, mais je trouve que c'est finalement assez anecdotique. Et moi, s'il y a une performance que je voulais retirer, c'était celle-là. Je pense que l'Inter, c'est une équipe qu'on cite pas souvent, mais qu'avec Liverpool, le Real et le Barça, c'est les 4 meilleures équipes du monde à l'heure actuelle. Donc voilà, coup de chapeau à eux. Ils font une très belle campagne pour le moment. Et que dire sinon, non, j'ai eu aussi j'ai regardé un petit peu le Barça qui a eu du mal contre l'Atalanta, mais finalement c'est logique, comme ils disaient les deux, c'était le match le plus équilibré sur le papier. Donc finalement je trouve que ouais, c'était
avec un Lookman blessé
ouais. Pour je crois 2 mois en plus, donc ça va, ils vont ça va être un peu difficile. Mais après l'Atalanta a ils ont Retegui devant qui marque but sur but, ils ont des ressources, mais c'était un beau match. Et je trouve que moi non plus je suis pas fan de ce format avec 18 matchs en même temps. Je comprends les raisons que tu as évoquées, je comprends que ce soit pour ça qu'on les joue tous en même temps, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a plus de rareté en football. Tu sais, là, on va passer par des 16e de finale avec des équipes qui sont parfois très faibles. Et des fois, j'ai l'impression que voilà, on mériterait un petit peu de restreindre les compétitions. Et on est plus, au contraire, dans une ouverture drastique. Donc, je trouve qu'il y a moins de matchs de très, très bon niveau dans ces compétitions et je le regrette un petit peu.
Merci, Lucas. Léo ?
Oui, pour reprendre ce que disait Lucas sur la rareté du football, ça se symbolise très simplement que tous les soirs, si tu veux voir un match d'un grand championnat, aujourd'hui tu peux, le lundi, mardi, mercredi, même quand il n'y a pas de Ligue des Champions. Aujourd'hui, le football, c'est plus un événement, malheureusement. Les gros matchs ne sont plus des événements non plus parce qu'on nous en propose à tour de bras. Des gros matchs qui aujourd'hui sont sur le papier, parce qu'on en reparlera peut-être si on parle de la Première Ligue, mais Arsenal-City, j'ai trouvé que c'était un bon match, mais c'est loin des matchs qu'on a eu il y a quelques années encore, tu vois. Donc, je pense que je te vois...
Non, parce que je trouve que c'est un peu dur de prendre ce match-là en exemple, parce que par exemple, le 2-2 à l'aller, moi je trouvais que c'était du très bon football.
Ça,
tu
oui,
vois,
ça c'est vrai.
Mais je prends la comparaison par exemple à un Liverpool City d'il y a 2-3 ans, tu vois.
Là, ça c'était le
là,
très,
on était
très
sur le très très haut niveau du football. On était certainement sur les meilleurs matchs qu'on ait eu récemment, tu vois. Même si on prend les classicos de ces dernières saisons, il y a eu des buts, mais c'était pas génial dans le jeu. On s'ennuyait un petit peu parfois.
Parce qu'il faut des histoires à raconter en fait. Et là, t'avais plus d'histoires à raconter.
Tu regardes l'Inter AC Milan d'hier, c'était pas exceptionnel non plus. Enfin, la première mi-temps de Lyon de OMOL hier, c'était nul.
Le Real depuis le départ de Benzema, ça joue plus de la même façon, c'est vrai. C'est plus aussi beau. Mais
ok. On va enchaîner et bien évidemment on est obligé de parler de cette équipe lilloise qui ont déroulé 6 buts à 1 face au Feyenoord et Lille qui se sont qualifiés directement en 8e de finale de LDC. Hein. C'est l'équipe qu'on n'attendait pas dans les 8 premiers et ils sont parvenus malgré tout leur adversaire. Hein. Ils sont quand même passés par le Real Madrid, ils ont battu
l'Atlético
de Madrid, Juventus, match nul. Ils ont fait des hautes performances et je pense qu'on ne doit pas négliger aussi. Je pense que Lille sont dans les 8 premiers et ça à juste titre. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette belle victoire face au Feyenoord le Feyenoord qui venait de claquer un 3-0 face au Bayern de Munich quand même.
Là, franchement, je suis ravi que tu me lances sur cette équipe lilloise parce que franchement, c'est l'équipe française qui m'a fait la meilleure impression dans les Coupes d'Europe cette année. Parce qu'on a beaucoup parlé de Brest à juste titre, hein, bien sûr, mais c'est vrai que les adversaires n'étaient vraiment pas les mêmes, quoi. Là, franchement, Lille a créé la surprise contre des adversaires de très haut standing, et en plus avec la manière. Avec la manière, souvent avec franchement du beau jeu proposé, du jeu flamboyant, ça lésinait pas sur les efforts, on voyait des joueurs concernés, Genesio qui faisait les bons choix au bon moment et des bonnes compositions de départ. Malgré la blessure de Zegrova, ils ont su s'adapter. T'as des bons joueurs qui ont su se dévoiler. Franchement, Lille, il n'y a rien à dire. Même contre Liverpool, ils étaient pas ridicules. Ouais. Et franchement, claquer 6 buts contre Feyenoord, qui, comme tu l'as dit, a mis 3-0 au Bayern la semaine d'avant, c'est pas rien. Parce que c'est vraiment pas rien. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de Lille qui marquait autant de buts dans un match, plus de 5 buts ou quelque chose comme ça. Donc franchement, là, Genesio, mine de rien, il est en train de décrire un petit peu l'histoire du club. Et en plus de ça, ça suit en championnat. Donc franchement, Lille, que du positif à tirer.
Oui, j'allais parler aussi de Monaco, on en a parlé, mais Monaco aussi qui ont réalisé une belle campagne, hein, en vrai. Hein. Bon, après, ils n'ont pas battu de grosses écuries non plus.
Ils ont battu Barcelone.
Ouais, c'est pour ça qu'ils n'ont pas battu de grosses écuries, c'est pour ça que je disais ça.
On s'en souvient du carton rouge à la 15e minute.
Mais bon, bien évidemment, c'est toujours une histoire de carton rouge.
Mais
bien évidemment, en tout cas, Monaco aussi qui ont réalisé une belle campagne, je trouve. Ouais. C'était pas mal. En tout cas, pour nos clubs français, les 4 qui se sont qualifiés, on les voyait vraiment pas comme ça en début de saison. On disait si Brest réussit à avoir 3 points et ne fasse pas 0 points comme on peut le faire Marseille. Bien évidemment, on passe un petit clin d'œil à Maxence hein, qui était d'ailleurs hier au Vélodrome et qui a subi franchement, je pense, la foudre des supporters olympiens qui sont imposés face à Lyon hein, lors d'un match vraiment à retournement de situation hein, pour le plus grand bonheur de Maxence et pour le plus grand malheur de Léo, bien évidemment. Et on enchaîne, hein, de toute façon, on va enchaîner. On va passer à la Première Ligue parce que ça ne va plus du côté de Manchester City. Ça ne va plus, rien ne va plus. Est-ce que Pep Guardiola pourra relancer cette équipe? On sait que là, c'est la fin des transferts. Donc, avec Marmouche et Kuchanov qui sont arrivés dernièrement.
Nicolas Gonzalez qui arrive de Porto, normalement.
Nico
Gonzalez. Mmh.
C'est un défenseur ?
C'est un milieu terrain qui était, c'est celui qui était à Barcelone et qui après allait à Porto.
Du tout. Ah. Non, désolé. Mais
il arrive à City.
C'est un bon joueur.
60 hein. millions.
C'est un bon joueur. Après, je ne sais pas s'il a le calibre de City. Il ne vaut pas 60 millions.
C'est
sa clause
libératoire.
De...
Ils n'ont pas négocié, ils n'avaient pas le temps. C'est la fin du mercato.
Ouais, c'est la fin du mercato. Et je pense qu'ils savent que sans ça, ça va être très très dur. Mais pour moi, c'est un latéral qu'ils auraient dû prendre aussi. Bah parce que Matheus Nunes.
Et il perd Kyle Walker.
Le pauvre Matheus Nunes.
Il laisse partir.
Il est très mauvais.
Il est très mauvais en latéral, franchement.
Savinho, Matheus Nunes, les deux, c'est.
Ah, mais franchement.
Dans d'autres contextes, je suis sûr qu'ils feraient beaucoup mieux que ça. Là, ils ne sont vraiment pas aidés. Pour des premières.
Mais pour moi,
deuxième saison, je crois.
Excusez-moi, on va y revenir tout de suite juste après la pause, on va faire une petite pause et on y arrive tout de suite.
Hey, retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
De retour dans les locaux de Mon Paris FM, il est 21h24 et bien évidemment, on va enchaîner avec la Première Ligue. Manchester City qui ne va plus. Manchester City avec un Pep Guardiola qui a fini de se griffer le visage et le crâne. Mais ça ne fait pas repousser ses cheveux et ça ne fait pas plus avancer Manchester City qui se sont inclinés de manière très, je ne sais même pas comment le qualifier, mais 5-1 avec surtout des buts d'anthologie, hein, des jolis buts et des célébrations aussi, des baptêmes aussi qu'on a vu des jeunes Gunners qui ont célébré et qui ont fait un très très gros match et pourquoi pas qui vont peut-être mettre la pression aussi sur Liverpool. Est-ce que vous pensez que ça met vraiment une vraie pression? Et là, Manchester City, je pense que pour le titre, la question ne se pose même plus. Ibrahima?
Non, mais je pense que si vous avez vu le match hier, vous allez vite comprendre que c'est clairement foutu pour le titre. Et moi, ce que je voulais souligner, surtout du côté de Manchester City, c'est la défense. C'est-à-dire qu'un joueur comme Akanji, on sait que la force de Manchester City, c'était de repartir de derrière et de pouvoir aller vers l'avant en enchaînant des passes. Ils sont plus capables de le faire. Et sur chaque relance, j'ai l'impression soit c'est une mauvaise décision du gardien, soit Stones il fait la passe à un mec qui est pris par 3 joueurs. Akanji, il n'arrive plus à faire une passe en avant. Ils se sont séparés de Kyle Walker qui voulait partir, mais tu récupères pas derrière, droit derrière. Je comprends pas trop. C'était pas ce week-end, mais la semaine dernière, il fait Pep Guardiola aussi, il fait débuter Kusanov, premier match face à Chelsea. Il fait n'importe quoi, le pauvre. J'ai l'impression que le coach n'est plus du tout inspiré, même dans les recrues, là. Le joueur qui va, Nico Gonzalez, je connais pas trop, j'attends de voir ce que ça va donner. Recruter Marmoush comme ça... Je sais pas si c'était la vraie nécessité.
Bah
c'est pas un mauvais joueur.
Je pense que c'est plus Marmoush qui a fait un mauvais choix et qui aurait dû peut-être terminer sa saison à Francfort. Ouais, en City, en fait, dans ce cas de figure où Manchester City, ils veulent des résultats maintenant. Et quand tu as un joueur comme ça qui est en pleine expansion et que tu arrives dans un club qui attend des résultats maintenant, ça peut te briser. C'est soit du kit ou double, soit tu es le sauveur, soit tu es tout simplement. Tu redescends, comme on dit juste.
Il y a des joueurs qu'on a surpayés, un joueur comme Grealish, c'est pas possible.
Mais Grealish, à part quelques 6 bons mois la nuit de la Ligue des Champions, franchement, Grealish a toujours été médiocre. S'il y a un truc qui est choquant, c'est la baisse de niveau de Kevin De Bruyne. Moi, j'ai jamais été.
Depuis le retour de blessure de
De Bruyne, la chute du niveau, parce qu'on voit Bernardo Silva aussi, il y a quand même. Le niveau fait un peu de peine, mais De Bruyne, moi, j'ai.
Non, Bernardo Silva, ça tient la route. C'est loin d'être le pire.
C'est loin d'être aussi flamboyant que ce que ça a été. Je trouve que la baisse de niveau de. De Bruyne, je trouve que c'est moi. Et vu l'importance qu'il avait dans le jeu aussi, dans la construction du jeu offensif de City.
Oui, mais c'est plus la même importance qu'il a aujourd'hui. Tu vois, maintenant, mais quand il y a un match, tu sais même pas s'il est titulaire ou pas.
Ouais, parce qu'il les pénalise plus qu'il les aide.
Oui, mais ça, non, mais ça, dès qu'il est revenu de blessure, Pep Guardiola ne le faisait pas jouer. Mais tu ne le faisais pas jouer. Donc déjà, ça te met un coup au moral. Et en plus de ça, on sait que Kevin De Bruyne, il est vraiment.
Pour moi, il est au-dessus de
excusez-moi
ça.
Excusez-moi du terme, mais il est en je m'en foutise un peu. Hein, on le voit même avec ses déclarations.
Il marche à l'affect, Kevin De Bruyne.
Ouais, c'est un peu ça. Et je pense que là, l'affect, ça marche plus du tout avec Pep Guardiola.
Bah, c'est dommage.
Et que Pep Guardiola a essayé de trouver un autre chouchou comme Marmoush, là, hein, qui le remplace. Bah, il remplace Marmoush à la.
Ouais, si je peux finir, il y a aussi au niveau des gardiens, il fait une rotation super bizarre que je comprends pas trop.
Entre Ortega et
Ederson.
En fait, ça ne leur donne pas de la confiance aussi.
Bah non, Ederson, il traverse une période compliquée, mais je pense pas que faire un turnover avec Ortega, ça va améliorer la chose. Donc moi, j'ai l'impression que le coach est complètement perdu. Il a prolongé pour 2 ans il y a quelques mois. Je ne sais pas si c'était la bonne solution. Et si vous remarquez bien, sa prolongation coïncide tout de suite avec
la baisse,
avec
encore
la
pire.
Baisse de, la baisse du résultat.
Bah, ils avaient déjà une baisse de résultat un peu avant.
Mais ça a empiré le truc,
mais
quoi, c'est ça.
Si, jamais de la vie, il y a deux ans, j'aurais pensé que City allait encaisser 5 buts. Ils en prennent 4 face à Tottenham aussi, je crois, à un moment, ou 5, je ne sais plus. Ils en prennent 4 à Paris. Même contre Crystal Palace, ils n'arrivent plus à gagner. Enfin, c'est compliqué, franchement. Et même les recrutements qu'ils font, là, j'ai l'impression que c'est plus pour... c'est du panic buy, quoi. Ils paniquent un petit peu, ils achètent tout ce qu'ils peuvent. Mais ouais, non, je pense que la saison va être compliquée. Je ne sais pas si Guardiola va rester là la saison prochaine. Et je ne pense pas que ce soit la bonne solution, d'ailleurs. À moins qu'il change 95% de l'effectif, mais...
Est-ce que ça serait la solution ? Parce qu'il y a la mentalité aussi qui fait ça. Et changer 95% d'un effectif en un an, c'est très très compliqué.
C'est très compliqué, mais il faut repartir sur de nouvelles bases. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont même cuits sur l'aspect psychologique. Hein.
Bah, c'est surtout ça. Hein.
Moi, je l'avais annoncé. Hein. J'avais annoncé la saison dernière qu'une fois qu'il y avait déjà une baisse de régime, hein, en fin de saison, même s'ils gagnent la première ligue, on voit qu'il y avait une baisse de régime.
Ouais, ils perdent la FA Cup.
Ouais, et surtout le fait que dès qu'ils ont réalisé le triplé, en fait, ça y est, ils ont tout pris. C'est des joueurs, en fait, qui se sont gavés. Ils sont arrivés, ils ont pris la première ligue autant de fois qu'ils pouvaient la prendre, et ils ont pris la Ligue des Champions, le Graal vraiment qu'ils voulaient depuis tant d'années. Et là, ils se disent, ça y est, je suis gavé, j'ai tout gagné, je suis arrivé. C'est une fin de cycle.
C'est
faut changer.
La saison de trop, je pense, hein, pour Guardiola.
Oui, je pense qu'il aurait dû partir en même temps qu'Jurgen Klopp. On aurait applaudi.
Ouais,
on aurait dit merci pour tout ce plaisir et ce spectacle qu'ils nous ont offert pendant 7-8 ans.
Au moins pas prolongé, comme dit Ibrahim.
Non, les 2 ans. Ça,
on ne sait pas dans quelles conditions il pourrait faire 2 ans en plus. Quoi.
Ouais, c'est... À moins de changer 95% de l'effectif. Même ça encore, il m'a l'air d'être plus transpiré. Donc je ne sais pas.
C'est compliqué. Alexandre ?
Bah, franchement, beaucoup de choses ont été dites par Ibrahima et franchement, je partage quasi tout. Et en fait c'est un problème, c'est alarmant oui et non, parce qu'en fait c'est logique, c'est la suite logique des choses. Il y a que le Real où il y a jamais de fin de cycle. En vérité, toutes les équipes, toutes les grosses équipes ont
dans l'histoire récente
oui non, parce que le Real, quand ils font une mauvaise saison, au final ils prennent peut-être un titre, enfin je veux dire, voilà, là City c'est logique, hein. Ils ont gagné, ils ont tout gagné pendant je sais pas combien de temps. Ils ont pris je sais pas combien de premières ligues, ils ont fini par gagner la Ligue des Champions, ils ont dépensé à tout va, il y avait beaucoup de joueurs. En fait, c'est aussi simple que ça, il faut avoir joué au foot, hein. Le discours du coach ne passe plus. Le discours du coach ne passe plus. Et quand tu as des cadres comme Kevin De Bruyne, Kyle Walker, etc., ou même Ederson qui commence à baisser de régime, bah forcément, c'est normal. Toute l'équipe baisse de régime. Le turnover des gardiens, il est incompréhensible. Ça me rappelle un peu le turnover de Donnarumma Navas. En fait, là, en faisant ça, tu plombes tes gardiens. Il y a une fragilité défensive qui est énormissime. T'as l'impression qu'à chaque action, ils peuvent se prendre un but. De mettre Kusanov contre Chelsea, c'est incompréhensible parce que le mec, c'est son baptême du feu. C'est un 2004, il vient d'arriver dans le monde professionnel à haut niveau. C'était quasi sûr qu'il allait faire une erreur. Au milieu de terrain, c'est un chantier pas possible. Kovacic, il traverse les matchs. Gundogan, son retour à Manchester City, il est mauvais. Kevin De Bruyne, comme a dit Lucas, il ne sert plus à rien, en fait, tout simplement. Il n'y a que Bernardo Silva que je sors un peu du lot, parce que Phil Foden, il est très mauvais.
Matheus Nunes.
Mais en fait, ça, c'est... Moi, les deux, Savinho et Matheus Nunes, c'est juste un vrai manque de niveau. Je pense qu'ils
n'ont pas d'accord pour
ils ont juste pas le niveau...
Je suis pas d'accord
le niveau dire. Manchester City, le niveau top 8 européen, je pense qu'ils ne l'ont pas. D'ailleurs, on le voit dans... Je vous l'avais dit déjà ici, hein, mais dans le body language, à chaque fois qu'ils... Regardez bien, à chaque fois qu'ils font une passe... à Matheus Nunes ou à Savinho, mais surtout à Matheus Nunes, ils soufflent déjà. Ils ont peur un peu de ce qu'il va faire. Ils ne lui font aucune confiance. Et donc ça, forcément, ça plombe le moral des joueurs. Et donc voilà, City, c'est comme ça. Là, ça va être une saison sans, et c'est incompréhensible qu'ils aient prolongé Pep Guardiola. Même lui, dans sa vie privée, ça va pas. Enfin, c'est un tout, en fait. Non, c'est vrai, c'est un tout. C'est, à mon avis, quand ils vont au centre d'entraînement, tu sens qu'il y a une ambiance qui pèse. Et malheureusement, ça va pas en s'arrangeant. Je pense que ça va être une saison sans. Ils vont se faire tuer contre le Real Madrid. Je pense qu'il y aura pas de, match, je pense aussi.
Attention. Enfin, la Ligue
quand
des
je dis
Champions,
tuer, ça va pas être un 4-0, mais
Champions.
Ça va être en tout cas...
La Ligue des Champions, c'est une autre compétition.
Mais je
c'est
pense
une
là,
autre compétition
en
sachant
qu'ils reviennent bien, le Real. Je pense
non,
Real
oui, mais là, Rudiger qui se blesse défensivement. Ouais, c'est la cata.
Ouais, mais...
Non, Rudiger, en sachant les matchs qu'il avait fait face à Haaland.
Et en sachant le nombre de blessés qu'on a du côté du Real défensivement.
Surtout. Ouais, non.
Ouais, mais pour. Enfin, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés du côté du Real. De toute façon, on en parle.
Et là, Marmouche, etc., pourront jouer aussi.
Voilà,
en
Ligue des Champions. Terminer là-dessus. Recrues, du coup, Marmouche, c'est. Bah, c'est un peu le soleil dans tout ce marasme qu'est Manchester City, parce qu'en vrai, Marmouche, il est rempli de bonnes intentions. Et même balle au pied, tu sens, qu'en fait, tu sens que c'est un joueur en pleine confiance et qu'il faisait vraiment une excellente saison. Et malheureusement, comme tu as dit, j'ai peur qu'il se plombe un petit peu. C'était peut-être pas le meilleur choix pour lui d'y aller, mais bon, après, ça, c'est pas surprenant parce que Leverkusen. Oui, c'était Leverkusen.
Non,
Francfort, pardon. Ils avaient besoin d'argent et Marmouche, il s'est dit, je vais aller à Manchester City. Il était loin de penser que c'était à ce point-là cataclysmique. Donc voilà, si je devais ressortir un joueur, Marmouche et Haaland, c'est compliqué. C'est le seul tir de Manchester City, le but d'Haaland en deuxième mi-temps. Donc voilà, ça en dit long.
Marmouche remplacé par Wai, d'ailleurs, du côté de Francfort.
On attend de voir, hein, excusez-moi. Ah, mais on attend de voir, voir ce que.
Bonjour, Eli Wai. Il était pas fait pour l'OM,
on
c'est
pas
tout.
On a parlé du mercato marseillais, mais il y a quand même deux gros flops. Wai et Brassier, quand même.
Ah, mais ils s'en séparent. Moi, je trouve ça très bien. Ils se protègent bien. Ils ont l'air bien remplacés en plus.
Financièrement, l'OM s'en sort.
Moi, je suis assez fan de Gouiri. Le profil, en tout cas.
Mais c'est quand même une grosse erreur de casting. 25 millions, quand même.
Mais ils leur ont vendu 26, donc bon.
Non, ils sont gagnants, mais. C'est compliqué.
Et là, s'ils prennent au milieu de terrain, c'était qui allait prendre Marseille là, au milieu de terrain,
Benacer.
Ouais, s'ils prennent, c'est un excellent joueur.
S'il n'est pas blessé. Ouais,
quand il n'est pas blessé, c'est ce qu'on disait en début.
On sait qu'en Ligue 1, c'est très physique. Mais bon, là, pour l'instant, on est sur la première ligue, hein, un championnat aussi très physique. Et bien évidemment, Liverpool qui se sont imposés grâce à l'incontournable Mo Salah, auteur d'un doublé face à Bournemouth. Manchester United qui sombre encore à domicile 2-0 face à Mateta. Hein, Mateta, auteur d'un doublé aussi. Lucas, ça te fait doucement rire.
Franchement, tu peux pas faire autre chose que rire en voyant ce Manchester United. C'était catastrophique. Même Kobbie Mainoo, tu sais, qui est un peu érigé comme leur sauveur depuis plusieurs semaines.
Amad Diallo aussi,
c'est vrai, les deux. Enfin, t'as raison, Amad Diallo en plus. Mais les deux, ils n'y arrivent pas en fait. Tu vois que même les joueurs qui sont plein de bonnes intentions, comme on disait, qui vont essayer de changer un peu les choses, de remettre de la dynamique à cette équipe, très vite ils commencent à se décourager. Je veux dire, Garnacho l'an dernier, c'était un peu le rayon de soleil. Garnacho, il ne met plus un pied devant l'autre cette année. C'est vraiment. Ça fait presque mal en fait de les voir comme ça. Tu vois, avec quelle facilité Mateta met son doublé pour Crystal Palace. Ben, en fait, on se demande si ce n'est pas ça le vrai niveau du United d'aujourd'hui. On se demande. Est-ce qu'ils sont vraiment une équipe du niveau top 10 Premier League? Est-ce que Amorim, c'est pas totalement une erreur de casting et que, et pour lui et pour le club, c'était un très mauvais choix d'y aller? Voilà, on sait que les anciens dirigeants avaient laissé un peu le bazar à Manchester United, mais ça n'a pas l'air d'aller beaucoup mieux avec la nouvelle équipe. Et là, ce qu'on
je
voit
pense sur... que ça va prendre du temps.
Ah, ce qu'on voit
ça
sur le terrain, c'est trop, c'est
oui,
trop
mais
dur.
Je pense que ça va prendre
terrain.
Du temps, surtout avec l'effectif. Là, ils ont laissé partir Rashford à Aston Villa. Ouais. Ils ont aussi prêté Anthony Martial à Betis Séville, qui a été d'ailleurs homme du match.
Non, l'Olympique aussi. Non,
Anthony.
Juste Anthony. Anthony Martial.
Il a été homme du match, mais il n'avait pas fait un si gros match que ça. J'ai regardé le match, c'était vraiment pas terrible.
Mais c'est pas un joueur de foot, lui. Enfin, ouais, comment
Anthony.
Il a coûté 100 000
mais, non, mais c'est incompréhensible.
Ça fait partie des zéniths.
À l'Ajax, j'aimais beaucoup.
Preuve de la très mauvaise gestion de Manchester United.
Il faisait sa toupie, je pense qu'il a fait sa toupie. Et il a rajouté un zéro derrière.
Il faisait pas que la toupie, franchement.
Non,
il fait sa tête avec ses sourcils et puis c'est bon. Mais ça, c'est la preuve que Manchester United, c'est.
On va redonner la parole à Lucas. Oui, oui.
United vraiment catastrophique et j'ai pas l'impression. Et en fait, comme tout l'effectif. Tu sais, ils n'arrêtent pas de dire on va ramener des nouveaux, etc., changer d'air, mais tu laisses partir Wan-Bissaka et en fait, il retrouve un super niveau. Donc en fait, par exemple, De Gea, pareil, qui fait une super saison à la Fiorentina. Donc en fait, tu as l'impression que le club, là, c'est vraiment tellement mal structuré, ça va tellement mal à tous les niveaux que ça se ressent sur le terrain. Et là, les joueurs, quels qu'ils soient, ils n'y arrivent plus du tout. Donc c'est assez inquiétant pour leur avenir, mais peut-être bon pour Lyon en Ligue Europa.
Vous allez peut-être rire, mais tu peux pas. Tu laisses partir Martial, mais je pense pas qu'Olyon soit meilleur que lui.
Non, mais surtout prendre Zirzi après Olyon pour plus les faire jouer les deux après.
Zirzi, c'est horrible quoi.
À Bologne, en tout cas.
Zirzi, il a pas un style de jeu pour moi qui se marie à la première ligue en plus. Donc l'avoir mis en concurrence de Olyon, effectivement, c'était ni fait ni à faire.
Mais en fait, le fait même de ne pas choisir vraiment entre les deux et de. En fait, c'est à tous les postes, c'est un peu ça. Du coup, c'est ça aussi. On s'est remis en question à tous les postes. Et parce qu'on laisse jamais quelqu'un s'installer.
Ouais, pardon. Et en plus, Alessandro qui s'est fait les croisés. Parce que vu comment il s'est blessé, ça peut être que les croisés.
Et donc, ouais. Yoro, c'est assez compliqué quand même ces débuts à Manchester là. Franchement.
Il rentre en jeu après. Bon,
ouais,
après
il était titulaire ce week-end. Franchement, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué à tous les niveaux, même Onana. Jamais...
Onana, il les sauve quand même. Onana, on peut critiquer. Oui, on peut critiquer.
Il va sauver un match. Le match d'après, il donne le match.
Limité, Onana.
Non, alors, Onana, il va donner un match. Et le match d'après, il donne le match.
Là, c'est trop
franchement,
limité.
Je trouve que dans le marasme de United, c'est pas du tout Onana que je vais sortir le premier. Pour moi, c'est un des seuls à limite à épargner Onana. Vu les arrêts qu'il sort, même s'il n'est pas totalement régulier et qu'il fait des petites erreurs à droite à gauche.
Des grosses erreurs qu'il a coûté match quand même.
Ouais, mais en termes de points rapportés et points évités et de points qu'il a coûté, franchement, pour moi, la balance, elle est largement en sa faveur. Et c'est pas le cas de tous les joueurs de United.
Je pense que l'effectif au complet même n'est juste pas bon en fait.
Oui, oui, il n'est pas bon parce qu'il est totalement déséquilibré et mal c'est des joueurs aussi qui n'ont pas le niveau et comme t'as, ouais, il est mal construit en fait.
Mais c'est un effectif qui a sa place tout simplement en fait.
C'est terrible à dire parce que c'est un club en fait qui tombe petit à petit aux oubliettes. Franchement, ils ont de la chance que la première ligue ils aient autant de places européennes parce que ils peuvent jouer un petit peu des compétitions européennes, mais sinon Manchester United c'est un club qui va très 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 mal.
Merci messieurs. Mo Salah, auteur d'un doublé, qui monte encore en puissance. Nottingham Forest qui s'impose 7-0 face à Brighton, hein, soit la plus large victoire des Forest, de l'histoire des Forest en tout cas. Qu'est-ce que t'en as pensé, Léo ?
Je pense, comme depuis... Enfin, ça fait plusieurs semaines, plusieurs émissions que je dit que le championnat est déjà plié parce que je vois pas Liverpool rompre. Leur match du week-end contre Bournemouth me le confirme encore un petit peu. Pour moi, c'était le match entre les deux meilleures équipes de Première Ligue actuellement, en tout cas dans le jeu. Le Bournemouth d'Iraola, c'est vraiment super sympa et agréable à regarder. Ils méritaient même pas de perdre ce week-end d'ailleurs. Mais la qualité individuelle, encore une fois, Mohamed Salah, le mec marque à tous les matchs. Il va bientôt entrer dans le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Première Ligue.
Même le top 4, il me semble.
Ou peut-être le top 4. Il dépasse un petit peu tout le monde. Il a dépassé Lampard, il me semble, ce week-end.
Ouais.
Il a 178 buts.
C'est monstrueux.
Il a dépassé Henry, il a dépassé Lampard. Je sais pas. Moi, de toute façon, Salah, c'est vraiment... Actuellement, c'est le meilleur joueur du monde. En tout cas, le plus efficace, peut-être. Il y a des débats entre plusieurs joueurs. Liverpool devrait aller chercher son championnat, sa première ligue, ce qui est marrant d'ailleurs, puisque ça faisait avant le titre de 2020, ils n'en avaient pas gagné pendant 30 ans, et là ils vont en gagner, ils risquent d'en gagner 2 en 5 ans. Ça montre beaucoup de choses sur la manière dont fonctionne ce club, le fait que tout soit bien géré, que l'effectif soit nickel, que le recrutement de ton entraîneur soit bien pensé. Encore une fois, avec Klopp, la manière dont il a accueilli Slot, c'est top. Tout est bien fait dans ce club. Félicitations à eux. Et Nottingham, c'est une super équipe aussi cette saison. Les travaux de Espirito Santo depuis plusieurs saisons, parce que ce n'est pas la première, sont vraiment, vraiment, vraiment remarquables. Il y a des vrais bons joueurs aussi dans cet effectif, hein. Je pense notamment à Elanga et à
Chris Wood qui réalise une belle saison même s'il est en fin de carrière.
Ouais, moi je pensais surtout à Murillo, leur défenseur central qui est une bête absolue, à la fois physique, il est rapide, c'est un défenseur qui porte le ballon, c'est
passé par Barcelone, Murillo.
Comment ?
Passé par Barcelone.
Ouais. Ouais. C'est vrai, il y a quelques ouh, ça fait longtemps en plus. Ouais. C'était à l'époque de
était très mauvais.
Là, le
Brett White.
Non, le milieu de terrain Paulinho et tout ça.
Oui, exactement.
Oh, c'est ça. Ok, très longtemps, ouais, effectivement. Ouais.
Non, Murillo qui fait donc une très grosse saison. Oui, Chris Wood aussi qui fait d'ailleurs sa meilleure saison en Première Ligue. La Brighton,
en pro, tout simplement.
Ouais. Brighton qui vient d'encaisser la troisième plus grosse défaite de son histoire. Et si je peux me permettre de te reprendre, Nottingham, c'est pas leur plus grosse victoire puisque En 1898, ils avaient gagné 55-3 à l'époque.
J'ai vu aussi que le Real avait battu en 1980 et quelques, que le Real avait battu le Barça
1940 ou quelque chose comme ça.
Mais voilà, mais pour dire que il y a des scores que on va pas tenir compte parce que ça fait bon. Après, c'est vrai, c'est 1898, oui. C'est quand même le football.
Et puis voilà. Y a...
1925, c'est quand même plus récent que le 1898. C'est vrai. Et c'était 48-0.
C'était
48-0. T'imaginais 48-0.
Avec 40 buts de Franco à l'époque.
40 buts de l'arbitre, je pense, surtout. Hein, bon.
Et je peux vous donner les buteurs, hein, non, mais je pense pas que vous les connaissez.
Non, la première ligue, ouais, championnat top. Par contre, va falloir qu'on parle d'Urzeler aussi sur le banc de Brighton. Ça fait plusieurs semaines, je pense que ça va bientôt
et juste
sauter
coup,
pour lui.
Je rectifie, Murillo, c'était pas celui-ci qui était passé à Barcelone. Lui, il était au Corinthians.
Ok. Bon, bah, merci de la rectification du coup. Urzeler qui est. Moi, j'aime pas cet entraîneur par ce qu'il dégage, par ce qu'il propose par rapport à ce qu'on a vu auparavant de Brighton. Je pense qu'il devrait pas tarder à sauter. Voilà, Brighton, c'est une équipe qui a un bon effectif, qui a un bel effectif, qui a des moyens en plus. D'ailleurs, on a vu, ils se sont permis de rejeter une offre d'Al Nasser pour Mitoma à hauteur de 60 millions de livres, il me semble. Donc, c'est quand même une équipe qui a, on va dire, de l'ambition. Il y a des bons joueurs et tout ça, mais ouais, ça prend pas cette saison. Et puis, pardon, vas-y.
Non, comme tu as parlé d'Al Nasser, je voulais parler de John Duran qui a signé.
C'est le club de ses rêves, c'est ça?
Ouais, il regardait quand il était petit. Il a signé Al Nasser. C'était Victor Boniface qui était
pressenti.
Ils avaient un accord avec les deux.
Ils avaient un accord avec le Leverkusen et finalement, c'est John Duran qui a prolongé il y a quelques mois.
Les deux, c'est tellement dommage de les voir partir d'Europe.
Bon, on va commencer à se poser des vraies questions.
Ouais, je me les pose déjà, moi, les vraies questions.
Bah oui, même Ben Rama qui va en D2 saoudienne. Je sais pas, il va en D2.
Après, c'est pour le club qui serait apparemment un des plus riches du royaume et qui serait amené à. C'est comme des joueurs qui rêvent au Paris FC, tu vois.
C'est quand même un choix.
Parce que si je peux apporter une pression, Neom, en fait, c'est pas le nom d'un club, c'est le nom d'un projet. Pour la Coupe du Monde 2034. Et Neom, ça va être une ville.
La ville qui sort de terre, là.
C'est ça, qui sort sur 135 mètres de haut et tout ça. Ouais, ça risque même de peut-être pas voir le jour. Ce qui est dommage, parce qu'il y a un stade qui est situé sur la ligne qui a été désignée pour la Coupe du Monde. Mais du coup, c'est un projet plus global que le simple club de football de D2 saoudienne.
Voilà, et ça ne veut pas dire que tu joues en D2 que tu touches moins d'argent.
C'est ça, surtout là-bas.
Que je voulais répondre à Alex.
Exactement. Je veux dire, c'est quand même un projet sportif qui est catastrophique. Mais bon, après.
Bah, le truc avec John Duran, c'est qu'il aurait pu prétendre un gros salaire aussi dans une grosse équipe.
Mais au PSG,
le
fait de par exemple.
Surtout qu'il prend que 9 millions, il me semble.
Ouais, donc un salaire qu'on sait payer en
euros. Non, il me semble que c'est 12.
Après,
ça reste des salaires de première ligue.
Après, voilà, les primes.
Je pense pas que quelqu'un nous donne 12 millions. Je pense pas que quelqu'un nous donne 12 millions.
Les avantages en nature aussi.
Voilà, c'est ça aussi.
Je pense pas que quelqu'un nous donne 12 millions n'importe où.
Tu vas te blesser là-bas aussi, ouais. Voilà.
Merci bien en tout cas messieurs, hein, Liverpool qui sont premiers bien évidemment avec 6 points d'avance sur Arsenal avec un match en moins. Arsenal deuxième, troisième il me semble que c'est Nottingham Forest et quatrième
City.
Manchester City. D'accord. Avec Chelsea qui sont en train de jouer actuellement mais c'est...
D'ailleurs.
Non, 0-0, bah, ils sont menés par, par un but de Jarrod Bowen. 1-0 pour West Ham. Chelsea, ça ne va plus aussi de leur côté. Hein. Chelsea qui enchaîne les mauvaises performances. Et ça, déjà, ils sont imposés dernièrement face à Wolverhampton. Mais bon, c'est dur. Après, le reste, c'était un nul face à Bournemouth, un nul face à Crystal Palace, une défaite à Ipswich, une défaite face à Fulham à domicile, un match nul aussi contre Everton. Bref.
D'ailleurs,
c'est
juste
Chelsea et c'est assez difficile en ce moment pour eux. Et ils sont, pour l'instant en tout cas, ils sont sixième. Newcastle qui leur chippe la place et qui sont cinquième. Oui,
pour conclure sur la Première Ligue, on peut saluer le travail de David Moyes à Everton. Il est arrivé il y a 4 matchs, ils en ont gagné 3 tout simplement.
Ils ont 4-0 à Leicester ce week-end, un but de Iliman Ndiaye qui revit depuis qu'il a quitté.
Il marque but sur but chaque semaine, je crois que ça fait 3 ou 4 semaines qu'il marque. Donc voilà, Everton c'est bien, c'est important que... Un club comme Everton, là, en plus, qui vit sa dernière saison à Goodison Park, reste et se maintienne en Première Ligue, je pense.
Ouais, d'ailleurs, Everton sous Sean Dyche, c'était horrible. Horrible.
Catastrophique.
Catastrophique. J'ai jamais, je crois que j'ai jamais pris autant peu de plaisir à regarder du football de ma vie, je crois.
Merci Ibrahima. Oh, on va enchaîner avec une petite pause, juste avant, avec une petite virgule, juste avant d'arriver, bien évidemment, en Liga, avec le Real Madrid qui perd face à l'Espagnol Barcelone. L'Atlético de Madrid qui se relance face à Mallorca, 2-0 avec un but d'Antoine Griezmann et qui reviennent à un point du Real Madrid juste avant le derby week-end prochain. Le Barça assure l'essentiel et s'impose assez difficilement quand même face à Alavés, 1-0. On y revient juste après les virgules. Barcelone qui sont imposés à Alavés. Alexandre, qu'est-ce que tu en as pensé de la performance avec un but de Lewandowski qui est plus que jamais meilleur buteur de la Liga, qui est beaucoup décrié, hein, surtout au FC Barcelone depuis le début de saison. Il a été beaucoup critiqué quand même, mais pourtant c'est quand même le premier joueur à atteindre les 30 buts toutes compétitions confondues dans les 5 grands championnats.
Ouais, mais bon, enfin, encore une fois, à juste titre, hein, bon, il marque, il faut le souligner, bien sûr, c'est très important de marquer, encore un but ultra important ce week-end, mais dans le jeu, il est très très mauvais, et je dirais même, ce qui me surprend fortement, mais le Barça joue mieux quand c'est Ferran Torres qui est en pointe plutôt que Lewandowski qui est en pointe, parce que le jeu sans ballon de Lewandowski, il est catastrophique et il ne prend pas la profondeur. Donc après c'est l'âge, hein, donc forcément on va pas lui demander de faire ce qu'il faisait la même chose à ses 25 ans, mais il marque le but important contre Alavés, 1-0. C'était un match vraiment compliqué, une équipe d'Alavés qui a bien joué, on faut le dire, qui a plutôt bien défendu et qui a su...
C'était pas des catcheurs.
Non, c'était pas des catcheurs qui a... Bah, l'arbitre n'a pas voulu sortir de carton, donc forcément quand tu ne sors pas de carton, au bout d'un moment les joueurs vont continuer jusqu'à ce qu'ils se fassent sanctionner. Je crois que le premier carton d'Alavés, si je dis pas de bêtises, il a été sorti je crois à la 70e, quelque chose comme ça, ce qui est absolument impensable au vu du match, mais bon, il faut quand même souligner la bonne performance du Deportivo Alavés qui a bien défendu et qui a su aussi jouer des contres. Des bonnes situations de contre, et il faut dire aussi que il y a la blessure de Gavi, voilà, c'est ça que je voulais dire aussi, la blessure de Gavi qui est sortie sur blessure, donc on n'a pas pour l'instant...
C'est un choc, ça devrait aller en vrai.
Ouais, c'est un choc, hein. ça devrait aller, mais ça a déséquilibré un peu les plans, mais le plus important, c'était au vu des matchs du Barça, du Real et de l'Atlético, le plus important pour Barcelone, c'était de prendre les 3 points, de revenir, je crois, à un point de...
T'es à 2 points du Real et à 4 de l'Atlético, il me semble. Non, avant qu'ils s'affrontent la semaine prochaine.
C'est inverse. Le
Real, ah oui,
il
y a
4 points du Real.
Voilà, 4 points du Real et 2 points de l'Atlético. Donc voilà, la bonne opération du week-end, c'est Barcelone qui l'a fait. Mais c'était un match vraiment compliqué, mais ils ont su assurer le minimum. Voilà.
Merci Alexandre. D'ailleurs, on vient de m'envoyer les chiffres de Alexandre de John Durant qui touche il est passé de 50 000 livres par semaine à 300 000 livres par semaine. Exonéré d'impôts en Arabie Saoudite.
Forcément.
Voilà.
Ouais, ouais.
Voilà, et du coup, c'est 300 000 par livres
le projet sportif
par semaine, du coup ça fait à peu près 350 000 euros.
Ouais, c'est ça.
350 000 euros à peu près.
Ah, c'est en livres, donc.
Oui, c'est en livres. Donc ça doit être 350 000 euros par semaine.
Quasiment 1,5 million par mois. Ouais.
Voilà, 1,5 million par mois.
C'est 18 millions l'année environ. Ok, super. Ouais, il est ok. Personne ne lui a refaire ça.
Al-Nassr se permet de le recruter parce qu'ils sont séparés de Talisca qui a rejoint Fenerbahçe.
Oui, qui a rejoint Fenerbahçe. Talisca qui est un bon joueur aussi, qui est jeune.
Carrière super bizarre, mais.
Très bizarre, mais c'est un bon joueur.
Ouais. Voilà, en tout cas, c'était une petite parenthèse. Le Real Madrid qui ont perdu à domicile 1-0 face à... Non, à l'extérieur, pardon, 1-0 face à l'Espagnol Barcelone. On voit des sourires sur les lèvres, des gloussements un peu autour.
Parce que Louis m'a montré un truc qui m'a fait rire. C'est le scandale mondial, apparemment.
Ils viennent de sortir un deuxième communiqué pour dire que c'est un scandale mondial qui continue à prendre de l'ampleur.
Et va...
Oh bon, après, il faut savoir que.
Il y a faute, hein, moi je suis d'accord, il y a faute, mais oui, franchement, le Real, mais... entre ça et le Ballon d'Or, il y a.
Barcelone n'a fait
de...
aucun communiqué, hein, je tiens juste à le dire.
D'accord, non, mais je tiens à rappeler. Non, mais...
bah oui,
la
non.
Susceptibilité je des Madrilènes, rappeler... quand même, c'est quelque
oui,
chose.
Oui, je tiens à rappeler aussi qu'un communiqué du Real Madrid n'est pas le même qu'un communiqué du FC Barcelone.
Bah, le poids, c'est le même.
Bah, non, le poids, ça n'est pas le même du tout. Médiatiquement, bah, le Real Madrid, la place qu'ils ont, il n'y a aucun club qui ont aussi un poids. Aussi, tu vois, quand il dit mondial, il sait que ça va tourner partout dans le monde. Ça ne va pas se limiter.
Du coup, là, tu tires une balle dans le pied.
Tu tires une balle dans le pied, oui.
Bah oui, non, ça veut dire qu'ils ont, par leur, leur influence, ils ont le pouvoir de...
D'influer sur les décisions.
Oui, d'influer.
Non, ça n'a rien à voir avec influer.
Je dis juste que un président qui est ouvertement supporter d'un club. Ouais. Donc à partir de là, il y a un problème de conflit d'intérêts.
Que ce soit le président de la ligue et le président de la fédération qui l'a dit aussi.
Mais les peu deux, importe le club, ça, on s'en fiche.
Les deux se disent supporters du Real Madrid.
Non, mais là, on.
Oui,
on
a... ça, c'est leur choix après. Mais
non,
moi, je vous dis juste.
T'as pas le droit de le dire.
Oui, non, ça, c'est sûr que t'as pas le droit de le dire. Ça, c'est bien évidemment. T'as pas le droit de le dire.
Supporters dans les bureaux,
mais dans les bureaux, voilà. Comme le maire de Madrid qui est fan de l'Atlético de Madrid et qui reçoit le Real et qui prend le maillot avec un sourire marquant et qui le jette à la poubelle.
Mais lui, il a pas de pouvoir.
Oui, non, mais en gros, je vous explique que en gros, chacun a une identité, mais ils doivent quand même pas le montrer. Ils doivent être professionnels. En tout cas, ça doit prendre le pas.
Si on parle de ça, au-delà de la blague de faire un communiqué, bon, c'est marrant parce que c'est le Real, justement. Moi, c'est ça qui me fait rire, c'est que tu vois pas un autre grand club, donc que ce soit, t'as dit le Barça, mais City, Arsenal, le Bayern, la AC Milan, l'Inter, jamais tu verras un communiqué sortir. Les seuls qui réussissent à rivaliser cette semaine, c'est l'Olympique de Marseille qui sort un communiqué par semaine. Ils sont en train d'écrire un livre de communiqués, l'OM, par rapport aux erreurs d'arbitrage. Alors, à tort ou à raison ? Parce que oui, effectivement,
c'est
il y a
le fonctionnement du club. On est d'accord, on n'est pas d'accord.
Mais est-ce que la victimisation va permettre de changer quelque chose ?
Bah,
non,
tu mets pression sur les arbitres aussi les prochains matchs. Parce qu'ils savent qu'il y a une pression, ils savent qu'il faut bien les arbitrer, sinon derrière il y a une tempête médiatique.
Mais vraiment, je vous
invite
à
regarder. Non, mais attendez, excusez-moi. Là, on est en train de parler quand même, parce que ce qui est assez fou, on est en train de faire un débat sur le communiqué, alors que ça n'est pas le sujet du tout. À aucun moment on parle du communiqué, ça n'est pas le sujet du tout. On vous parle d'un match de football qui s'est réalisé. Si vous n'avez pas vu l'action, je vous invite à regarder l'action. Il y a faute ou pas, parlez-moi du match. Mais vous me parlez d'un communiqué, excusez-moi.
Parce que ça, c'est en lien avec ce qui s'est passé.
Oui, mais ça n'est pas là.
T'es d'accord qu'il y a quand même des erreurs d'arbitrage à tous les matchs ?
Oui, ne changeons pas les choses. On parle d'un match de Liga, et on parle quand même d'un match de Liga, ce qui s'est passé à l'intérieur. On va pas parler du communiqué. Ah, l'autre, il est supporter du Real. Negreira, il était supporteur du
Alex
Barcelone.
Je crois qu'Alex, il venait le sortir depuis un moment, ça, il le gardait. Hein.
Je vous demande juste vraiment de regarder tous les matchs de Liga, et vous verrez qu'il n'y a pas du tout que le Barça qui se plaint des erreurs d'arbitrage. Hein.
Mais c'est comme avec Marseille en Ligue 1, mais c'est très répétitif, donc ça prend plus d'ampleur, j'ai l'impression.
Lucas, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match ?
Je l'ai pas vu, mais j'ai pas vu le match du Real, mais j'ai regardé les images et effectivement il y a penalty, et s'il y a rouge, je suis absolument pas choqué. Il y a faute. Et je pense que s'il y a rouge, c'est pas fou quoi. C'est pas un scandale. Ce que je retiens moi, c'est que ça relance quand même. On disait la semaine dernière justement qu'avec 7 points, peut-être que le Real était trop loin pour le Barça. Mmh. Bah, on voit qu'en une semaine, on n'est plus qu'à 4 et qu'en fait, il y aura du suspense jusqu'au bout. Je pense que c'est très serré. Je pense que ils vont tous perdre encore des points un petit peu bêtement, que ce soit le Real, le Barça, l'Atlético. Donc on verra sur les confrontations directes ce que ça va faire. Et je pense que vraiment, c'est les équipes qui ont un niveau qui n'est pas très loin, en tout cas en championnat. Donc ça devrait être intéressant jusqu'au bout. Voilà.
On parle quand même de la pire équipe de la décennie du Real Madrid et de la meilleure équipe du FC Barcelone qui est troisième.
Attends, pendant 10 ans, oui. Le Real a eu un top 3, pas un top 5, un top 3 mondial à chaque poste et même sur le banc. Là, le Real a quand même un top 5 effectif mondial.
Non, mais en termes de jeu, on dit que c'est le pire Real quand même. C'est un Real qui ne voit pas le jour, je sais pas, qui ont du mal. On voit, ils perdent contre l'AC Milan, ils perdent contre Liverpool, et de manière, on voit la manière. C'est de ça qu'on parle.
En tout cas, vu la matière qu'il y a dans l'effectif, il y a des problèmes, il y a les blessures et tout. Mais vu la matière qu'a le Real, tu prends tout leur effectif, tu peux pas dire que c'est le pire. C'est trop fort pour être le pire de quoi que ce soit en fait. Je suis désolé, c'est juste trop fort le Real en termes d'effectif.
Après, là où je rejoins, c'est vrai qu'en termes de jeu, c'est soporifique.
En termes de jeu, pas en termes d'effectif.
Ça propose rien. Après, je vois ce que tu veux dire. En gros, ce que tu veux nous dire, c'est que le pire Real les leaders de Liga et que le meilleur Barça est 3ème de Liga, mais je pense que
c'est pas 4 le meilleur points. Barça, mais...
le meilleur Barça de ces 5-10 dernières années, je pense, à peu près.
Ouais, mais t'as 5-10 non, t'as perdu Lionel Messi. À partir du moment où t'as perdu Messi qui te marquait 40 buts par saison,
non, mais même quand Messi était là dans les dernières saisons, c'était assez difficile.
Mais oui, mais il y avait Messi. Et au final, ils gagnaient les titres.
Ouais. Gagnaient les Ligas,
oui, mais bon, quand même, ça n'était pas la meilleure équipe. Aujourd'hui, moi, je vois le Barcelone, il m'enchante. Moi, je vois un Barça aujourd'hui qui m'enchante. Quand il y a les matchs du Barça, c'est pas je m'assois et je me dis, je regarde le match
quand
du Barça.
Tu joues des grosses équipes.
C'est je m'assois et je me dis, il y aura. Oui, mais je parle dans majorité. Quand je m'assois devant le match du Barça et que je regarde avec Hansi Flick, je sais que ça va être un jeu proposé.
Il y a des chances que ça joue au
football. Voilà, que ça joue au football, que ça joue un beau football et qu'il y a des beaux joueurs. Et qu'il y a un mec comme Lamine Yamal qui va te faire, qui va te sortir plusieurs trucs dans le match. Rafinha sur l'autre côté. Excusez-moi, mais. Pour moi, en tout cas, de ces dernières années, c'est le meilleur Barcelone que je vois. Dans le jeu, en tout cas, surtout. Oui,
là, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens et on verra en fin de saison si
le
Real est bien
devant. Là, il parle dans le jeu, oui.
Non, mais on parle vraiment de jeu. Mais bon, bref, revenons à nos moutons. En tout cas, le Real qui ont perdu à domicile à l'Espagnol Barcelone. Ibrahima, qu'est-ce que t'en as pensé ?
J'ai vu le match. Beaucoup d'actions ratées déjà par le Real Madrid.
Et le but refusé de Vinicius,
oui, le but refusé.
Pour toi, il y a faute. Il doit être refusé, le but.
Celui où Mbappé fait faute.
Oui.
Oui, il y a faute. Il le pousse. Bon, après, il faut dire que le défenseur, il cherche quand même. Hein. Mais Mbappé, s'il ne le pousse pas, il y a but. Mais il le prend, il le jette par terre, donc il y a faute. Mais après, oui, sinon, pour revenir sur le match, c'est une défaite un peu bizarre. Il rate beaucoup d'occasions. Et ce qu'il y a à retenir de ce match, c'est la blessure de Rudiger. J'espère que ce n'est pas trop long, parce que... Une défense centrale, Asensio, Tchouaméni, franchement, ça risque d'être assez compliqué pour le Real Madrid. Mais sinon,
Alaba est revenu, non ?
Oui, j'ai vu qu'il s'est chauffé. Mais
Militao, il revient pas bientôt non plus.
Bon, c'est toujours mieux que.
Militao, il est pas de retour bientôt. Ça fait un an qu'il est blessé.
C'est
aussi.
Mort,
non, Militao, je crois que c'est.
C'est grave. Militao, je crois que c'est la saison.
Ouais,
la
saison finie.
Carvajal, saison finie aussi.
Carvajal, je savais, mais je pensais que Militao, il allait. Mais comme c'était en début de saison, je pensais qu'il pouvait revenir
à la fin. C'est assez grave.
Il y a que Scamacca qui revient au bout de 6 mois.
Zlatan.
Lucas
Depay aussi à l'époque.
Ouais, mais sinon. Moi, sincèrement, le jeu du Real Madrid, c'est vraiment pas beau à voir jouer. Quoi. Ça repose énormément sur des individualités, notamment Bellingham et Vini et Mbappé, les deux devant. Sinon, le reste, c'est très compliqué. Et défensivement, à chaque fois qu'il y a un attaquant qui va un petit peu vite ou qui joue à la profondeur, Tchouaméni est complètement dépassé. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner face à City. Je pense que le Real va s'imposer quand même parce que City, c'est beaucoup trop faible. Mais défensivement, va falloir faire quelque chose du côté du Real. Et j'ai pas compris pourquoi il n'y a pas eu de recrutement d'ailleurs à ce niveau-là. Parce que même un joueur comme Lucas Vázquez, c'est compliqué. Les deux arrières gauches, je les trouve pas bons. Que ce soit Mendy ou Garcia.
Parce qu'ils attendent que les joueurs soient libres pour aller les récupérer.
Ouais, je sais pas, ils font un peu les rats ces dernières années.
C'est une stratégie qui est très agressive, mais qui est payante. Parce que tu donnes parmi les meilleurs salaires au monde. Donc tu gardes ta place de meilleur club mondial. Et tu te sers de ton attractivité pour pousser les joueurs à pas prolonger.
Ah, ils ont l'une des meilleures politiques sportives.
Alors, vis-à-vis des clubs, c'est un peu dégueulasse.
Ils proposent quand même. Comme là, j'ai pu voir pour Alexander Arnold à Liverpool, ils ont proposé. Ils ont proposé.
Tu vois, dans des conditions tellement arrangeantes pour eux, que tu vois, dans tous les cas, c'est...
Mais comment des clubs, moi ce qui me semble bizarre, comme là Liverpool avec Mo Salah, comment des clubs de ce standing là peuvent se permettre d'avoir des joueurs qui vont arriver en fin de contrat en moins d'un an? En fait, pour moi, c'est des fautes professionnelles des autres clubs. Excusez-moi, mais récupérer Paris Saint-Germain gratuitement, tu as récupéré Rudiger gratuitement, tu récupères Alexander Arnold gratuitement. Excusez-moi, mais ce sont des fautes professionnelles des clubs. Je sais pas s'il y en a qui font des cadeaux.
Sur toutes les négociations,
après, rapidement, là aussi, on dit que le Real fait pression pour que les joueurs ne prolongent pas. Par exemple, là, Nuno Mendes, on a déjà parlé de son contrat qui finit en 2026. Il n'ira pas à Manchester. Par contre, il y a des rumeurs comme quoi le Real le pousserait aussi à ne pas prolonger. Comme ça, en 2026, Nuno Mendes va. Ça commence à sortir un petit peu.
J'aimerais bien avoir ce communiqué. Mais chaque joueur qui ne veut pas prolonger, chaque joueur qui ne veut pas prolonger dans son club, c'est le Real Madrid qui. Non, faut arrêter deux secondes.
Chacun des très très grands joueurs.
Davis, regarde, Davis, il a prolongé là.
Oui, mais le Real a essayé de le recruter.
On sait pas,
il y a pas vraiment. Non, mais il y a discussion, il y a pas
en fait,
discussion.
C'est l'agent qui place Davis là pour faire monter les enchères aussi.
Mais est-ce que vous savez, voilà, ça fait monter aussi les enchères quand t'entends qu'il y a un club qui est dessus.
Davis, la rumeur a été très longue. Je suis d'accord que des fois, il y a souvent un jeu de dupes. Et en général, quand tu veux vraiment prolonger, t'attends pas 3 mois, 4 mois avant de prolonger. Davis, pour moi, il a failli aller au Real et finalement, ils l'ont prolongé.
Il veut faire monter les enchères.
Ah, mais il a bien fait.
Non, mais il a peut-être envisagé un départ, mais en tout cas.
Mais en tout cas, c'est une politique rationnelle où tu prends peu de risques, et donc je pense que c'est une stratégie pour rester très très longtemps au top niveau de la part du Real. Voilà.
Est-ce que vous pensez que les contrats, ça va encore dire quelque chose? Parce que quand on voit John Douane qui prolonge il y a quelques mois, il a prolongé, il a mis 2 ans.
Franchement, le débat, ça fait très longtemps qu'il a...
Bien sûr que ça veut dire quelque chose. Franchement, mine de rien, faut pas se leurrer sur la réalité du marché. À part les clubs anglais et le Real, justement, et Paris et l'Arabie Saoudite...
Tout le monde est déficitaire. Ouais, franchement,
tout est déficitaire. C'est très compliqué. Hein, donc, il n'y a pas d'argent. C'est pour ça que les contrats, il y a un jeu énorme. Et il y a beaucoup de gens de clubs qui veulent faire prolonger. Par exemple, à l'image de Araujo, qui prolonge, alors que peut-être qu'il envisage un départ à la Juve. Comme Mbappé qui a prolongé pour qu'il y ait des indemnités de transfert, etc. Enfin, c'est tout un schmilblick, comme on dit.
Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour nous, je pense. L'émission est terminée, vous la retrouverez en ligne très rapidement. Merci à Léo pour la technique, merci à Léo dans le studio aussi.
À chaque fois je me fais avoir.
merci à Lucas, merci à Alexandre, merci à Ibrahima.
Bonne soirée à tous.
Et bonne soirée à tous, j'espère que vous allez passer une bonne semaine de football aussi, et on revient la semaine prochaine pour faire un grand débrief sur le tout. Merci à vous, bonne soirée.
Bonne soirée.